Les podcasts d'Opost sont en libre accès et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur opost.fr.
Amis du café, amis de la police, amis des polices, amis de la littérature large, de la littérature française, amis de Sorge Chalandon.
Bonjour.
Très bien. Comment vas-tu, Sorge ?
On se tutoie, donc là on dit la vérité. En fait, c'est une émission, on se tutoie vraiment quand on se tutoie. Parce que généralement, ils se vouvoient, ils font comme s'ils ne se connaissaient pas.
On se connaît.
On se connaît depuis très longtemps. Ouais. On a travaillé ensemble à Libération.
Tu étais mon journal. Chef.
Bah non, je n'étais pas chef, j'étais coordinateur, disons.
C'est pas pour ça que tu es là, mais nous parlerons de ça. Mais c'est vrai que cette émission, ce sont des retrouvailles. Mmh. Tu es là aujourd'hui pour ce bouquin, le livre de...
Kells.
Comment on prononce
Kells. Tout simplement, le livre de Kells.
Voilà, qui est ton 12e roman, c'est
12e
ça
roman, et tous chez Grasset, puisque Grasset m'a fait la grâce d'ouvrir mon enveloppe que j'ai envoyée quand j'étais petit en 2005 avec un premier roman. Et depuis, ils ont accepté ce premier roman, et depuis je les suis tout le temps, et ils me suivent tout le temps. Et c'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui.
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es, un auteur à succès ?
Non, je suis un journaliste qui écrit de la fiction de temps en temps pour se laver un petit peu des dégueulasseries qui nous entourent.
On parlera de journalisme, puisque ton oui. bouquin parle, à un moment donné, d'un drôle de machin. Rue de Lorraine, dans le 18e arrondissement à Paris, dans les années 70.
C'était le bon temps, d'ailleurs. Parce que les kiosquiers disaient « Libération, on ne vend pas de ça ici. Si tu veux ce journal, t'as qu'à aller à Pékin ou à Moscou. » Quel bonheur. Et dans les conférences de presse, les gens disaient « Ah non, non, vous n'avez pas de carte de presse dehors. » Quel bonheur. Et c'est là où je me suis dit « Bon, peut-être que ce journal va me plaire, finalement. »
Et donc, on va y venir, c'est la fin du bouquin. Je vais résumer rapidement ce livre. Tu es donc journaliste, tu es donc écrivain français, tu reviens avec le livre de Kells, 12e roman, sans doute le plus intime. Je n'ai pas lu les 12, j'ai dû en lire plus de la moitié. Il me semble que c'est le plus intime, en tout cas c'est celui qui m'a le plus touché. Et Dieu sait que d'autres m'avaient beaucoup touché, comme Mon traître et d'autres. Un adolescent de 17 ans fuit Lyon. Un père violent, raciste, antisémite. Cet adolescent gagne Paris, découvre la faim. La rue, c'est un chien de rue, écris-tu, et c'est toi. Il découvre les petits voleurs, les grandes âmes, la solitude des années 70. Et puis, la rencontre avec la maréchaussée. Nous parlerons à plusieurs reprises de la police, puisque tu es au poste et tu en dis de drôles de choses parfois. Son salut, le jeune Kells, double de Chalandon, donc, le trouve auprès de militants enragés, portés par la gauche prolétarienne, on va préciser, les maoïstes.
Alors, les maoïstes, mais pas les maoïstes croyants, pas les maoïstes dévots. C'est-à-dire qu'il y avait des maoïstes français qui avaient le petit livre rouge, lorsqu'une ouvrière chinoise dans une usine numéro 4 à Pékin faisait 4 pièces supplémentaires par jour, ils fêtaient ça en disant « Ouais, ils sont trop forts, les Chinois ». Nous, pas du tout. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait, nous étions un mouvement anti-autoritaire. La Chine, on n'en parlait pas du tout dans notre journal « La cause du peuple ». Et c'était... Nous, ce qu'on voulait, c'est, en fait, c'était être le plus à gauche possible. Après qu'on agite la faucille et le marteau parce que c'était la peur des rouges pour les bêtes à cornes, ça ne me dérangeait pas du tout. Mais en tout cas, je n'ai pas passé avec ces gens-là du temps à étudier les œuvres. Je n'ai pas lu Mao, j'ai acheté le livre 1 du Capital de Marx parce que voilà, puis je n'ai jamais acheté le reste, je ne l'ai pas ouvert. C'est-à-dire que ce n'était pas une volonté de rentrer dans un moule idéologique parce qu'on n'était pas sectaire du tout. C'était une volonté de partout où il y avait oppression, il y avait résistance. Et cette résistance, il fallait que nous, on l'incarne.
Tu y apprends la solidarité, l'engagement, mais aussi l'illusion et l'épuisement des causes et des luttes. La mort de Pierre Auvernet marque un tournant, on parlera de Pierre Auvernet. Il y a aussi Munich, 1972. Oui. Il y a Bruit en Artois, on en reparlera. Donc oui. Ça, c'est pour tous ceux qui savent, vous allez voir que Sorge a un point de vue qui est le sien, formidable sur tout ça. Et pour ceux qui ne savent pas, bah justement, ça va être l'occasion de découvrir ces années-là. Tu écris ton récit comme entre mémoire et fiction. Tu dis c'est un roman. Est-ce qu'on va parler de ça? Est-ce que c'est un roman, pas un roman? En tout cas, c'est un livre d'errance et de survie, récit retenu, comme l'on dit, d'une colère depuis 50 ans. Et j'avais dit dans la convocation tu fus mon chef à Libération et que donc c'était c'est des vrai. Retrouvailles. Mais surtout, je me suis rendu compte depuis que tu étais le 800e convoqué d'Opost.
800e?
800e.
Mais non.
Mais si.
Mais c'est... Mais
alors, excuse-moi, aux joies.
Mais comment est-ce qu'ils finissent tous? Parce que je...
Très bien.
C'est vrai? Est-ce qu'il y a des gens qui sont inculpés, mis en examen, relâchés? Est-ce que ça va pour eux ou pas du tout?
Ils sont tous relâchés, mais tous sous surveillance.
Ah oui, c'est ça. Ah
bah, donc, bien sûr.
Le petit bracelet, tout. D'accord, ok.
Tu connais.
Le 800e, c'est considérable.
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup, oui.
Bon, tu démarres. On va poser la question, est-ce que roman ou pas roman? Ce que tu vas nous dire, c'est ce qu'il y a dans le livre, mais ce qu'il y a dans le livre, c'est ce qui s'est réellement passé, ou est-ce qu'il y a des jointures qui sont romancées? Qu'est-ce qu'on doit prendre de ce que tu vas nous dire?
Tout. C'est-à-dire que je suis cet enfant de 17 ans qui se sauve de chez moi. Je suis cet enfant qui avait un père antisémite, raciste, fou, qui est mort en hôpital psychiatrique. Je suis cet enfant qui s'est sauvé parce que c'était... Je grandissais petit à petit et je savais qu'à un moment ou à un autre, il y aurait un mort. Soit moi, soit lui. Mais qu'il fallait à un moment donné que vraiment que je me sauve, donc je l'ai fait. Je suis ce petit Kels qui a dormi dans la rue pendant 9 mois, c'est-à-dire vraiment 9 mois de rue. Donc, on ne disait pas SDF à l'époque, on disait, je ne sais pas ce qu'on disait d'ailleurs, mais qui vivait dans les caves, dans les sous-sols. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu froid, j'ai eu peur. J'étais obligé de me battre avec mon couteau pour sauver ma peau, pour sauver mon sac, etc. Tout ça est totalement exact. Je suis ce jeune homme qui, tout d'un coup, découvre la militance et les militants qui me sortent de la rue, qui m'offre un toit, qui m'offre un espoir, en fait. Un espoir qui est extrêmement fort. Je suis tout ça. Mais en quoi c'est un roman? Par exemple, Denis, dans mon livre, s'appelait Jean-Denis. Marc s'appelait Jean-Marc. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais je me suis permis de reconstituer, par exemple, des dialogues. C'est extrêmement difficile, 50 ans après, de faire le dialogue exactement comme il était. En revanche, tout ce que l'on traverse, tout ce que Kels va traverser, tout ce que ce jeune homme lyonnais va traverser, je l'ai traversé. Peut-être que je cache 2 ou 3 choses, parce que qui sont encore plus inavouables, même aujourd'hui, même si tout ça... Je suis désolé, parce que je sais que je suis au poste, donc c'est le moment de parler ou de me taire à jamais. Mais il y a peut-être des choses que j'ai tues, non pas en ce qui me concerne, mais en ce qui concerne des chefs connus, reconnus, qui peut-être ont fait des choses dont il vaut mieux pas parler, et en tout cas c'est pas à moi à les dénoncer dans un roman. Donc voilà, tout est vrai et tout est apaisé par la fiction, une fiction appropriée, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que si on me dit par exemple, mais vous avez vraiment fait ça, j'ai toujours la possibilité de me dire, oh, c'est un roman quoi. Mais si je suis en confiance, je dirais, bah oui, j'ai fait ça.
Mais je suis bien emmerdé par ta réponse. Parce que page 104, Monsieur Chalandon.
Oui.
Il y a une question de Sentier Battant qui va beaucoup t'intéresser. On va y répondre juste après. Page 104, tu écris, je ne voulais pas fuir cette vie, mais en construire une autre.
Oui.
Qui est une magnifique phrase.
Oui.
Donc là, c'est le... À ce moment-là, tu as déjà découvert le militantisme.
Oui.
Mais je me dis, tiens, est-ce qu'il est en train de me parler de son travail d'écriture ?
Alors, pas du tout. Non, je ne voulais pas faire cette vie, mais en construire une autre. Voilà. Et donc, non, je reste sur cette phrase. Je ne parle pas du travail d'écriture. Je ne parle pas d'une façon de vivre autre chose par une fiction appropriée, par autre chose de... Non, non, non. Je voulais juste fuir... Non pas fuir cette vie, c'est-à-dire je voulais pas mourir, je voulais pas vivre autre chose. Je voulais que tous ensemble, nous construisions une autre vie. Et ça, c'était une chose qui était extrêmement importante pour moi. Il n'était pas question pour moi de détruire quoi que ce soit, mais de reconstruire autre chose sur ce qu'on appelait à l'époque les ruines du vieux monde, donc mes ruines aussi d'enfants battus. J'étais enfant battu et il fallait que tous les coups de ceinture que j'avais pris de mon père, etc., j'en fasse autre chose. Et j'en ai fait un formidable glaive, en fait. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu dans la rue m'a donné une cuirasse. Et le militantisme m'a donné une épée. Et avec cette cuirasse et cette épée, aujourd'hui j'ai 73 ans et je continue à me tenir droit et j'essaie de ne pas baisser les yeux face à ceux qui menacent.
Alors j'avais eu le bonheur de travailler à tes côtés 5 ans à peu près.
Oui.
Ça crevait les yeux que tu étais quelqu'un d'ultra sensible.
Oui, et je suis toujours.
Quand on te lit, et tu l'es toujours,
bien sûr.
Et tes pleurs ne sont pas fins.
Non.
On t'a vu dans un documentaire sur Barbie.
Oui.
On en a parlé avec le réalisateur, etc. Mais par contre, j'ignorais la rue. Je ne savais pas que tu avais vécu.
Eh bien, moi, c'est un peu... Enfin, je ne sais pas si un jour tu passeras au poste toi-même, mais tout le monde cache toujours quelque chose par rapport à sa famille, par rapport à son passé, par rapport à sa vie.
Bien joué.
Voilà. Et moi, en fait, j'avais eu honte de ça. C'est-à-dire que je me retrouvais avec ces jeunes militants, il y avait aussi des fils de bourgeois, hein, où je me retrouvais aussi à Libération, et j'avais honte d'avouer que j'avais été dans la rue. J'avais honte d'avouer que j'avais volé, aux étalages, que j'avais fait l'amende, j'avais fait de l'amende dissipée, j'avais plus honte de la rue que de la violence qui a suivi la rue, donc j'ai fait en sorte que ça ne se sache pas, en fait. Vous savez, là, c'est mignon parce que, lorsque je me suis enfui de chez moi, ce que je voulais, c'était devenir un hippie ou un beatnik. Je n'ai pas encore très bien toute la différence. Mais pour moi, c'était ça. C'était, je voulais un pantalon violet, je voulais une blouse mauve, je voulais une petite pochette indienne et partir sur les chemins de Katmandou.
Et Ibiza.
Et Ibiza, etc. Donc la première chose que j'ai faite quand je me suis sauvé de chez moi, j'ai trouvé un foulard et je me le suis mis dans les cheveux comme le foulard de Jimi Hendrix ou d'autres foulards que je voyais parce que je voulais appartenir à ce monde-là. Et quand j'ai quitté ce monde-là, parce que c'était un monde de drogue, c'était un monde qui est extrêmement dur, où tu es seul au monde dans la rue. Personne, il n'y a pas de fraternité de rue. En tout cas, peut-être qu'il y en a maintenant, mais à l'époque, il n'y en a pas du tout. Jamais tu as été aussi seul lorsque tu es dans la rue. Il faut faire attention à toi. Tu comptes sur tes propres forces ou tu crèves. Mais quand je me suis retrouvé avec les jeunes maoïstes ou les jeunes gauchistes ou les jeunes intellectuels, là, j'ai enlevé mon foulard, évidemment, et je me suis acheté des lunettes, mais sans verre, c'est-à-dire des lunettes avec des verres qui servaient à rien, mais parce que je trouvais qu'avec des lunettes, j'avais l'air intelligent comme eux. C'est terrifiant parce qu'à chaque fois, j'étais obligé de leur ressembler pour vouloir être accepté. Ça, j'ai pas pu l'avouer. Et pourquoi je sors ce livre-là? C'est le 12e roman. Parce que j'ai plus grand-chose à perdre, en fait. C'est-à-dire que je peux avouer que j'étais dans la rue, je peux avouer que je me suis drogué, je peux avouer que je me suis battu de façon extrêmement violente. Je peux avouer tout ça parce que, voilà, parce que je suis en crépuscule et parce qu'il fallait que ça soit dit à un moment donné. Puis j'ai envie que mes filles, elles le sachent aussi. Je veux qu'elles sachent que le père qui les a élevées, c'est ça. Et je ne regrette rien, jamais, ni du militantisme, ni de la rue, ni des souffrances. La chose que je regrette peut-être, c'est de ne pas être parti plus tôt de chez moi pour mettre du champ entre mon bourreau et la liberté.
Ton bourreau, c'est l'autre.
L'autre. Alors, j'ai appelé mon père dans plein de livres, mais cette fois-ci, je ne voulais même plus dire mon père, et je disais l'autre, parce qu'il est mort en 2014. Et c'est l'autre, c'est-à-dire pour moi, dire l'autre, c'est le... Je pense que c'est le plus grand mépris que je puisse lui opposer, c'est l'autre. Donc l'autre de tout, l'autre de moi, l'autre de ma façon de penser, l'autre de ma vie, l'autre de l'amour que je porte aux choses et aux gens, c'est l'autre. C'est l'ennemi, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est bizarre quand... Alors, je ne suis pas que ça. Mais des fois, les gens me disaient, est-ce que c'est parce que t'es venu de gauche, parce que ton père était d'extrême droite ? Je ne crois pas. C'est-à-dire que ça serait trop simple. C'est-à-dire que mon père aurait été maoïste, trotskiste ou communiste. Aujourd'hui, je suis au Front National ou au Rassemblement National. Évidemment, non. Mais en tout cas, je sais que je venais de ce monde-là et je ne voulais pas y retourner. Jamais, en rien, jamais, je voulais retrouver des gens qui avaient ces idées-là. Et c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Lorsque je dis que mon père était raciste, ce n'est pas un mot en l'air. C'est-à-dire, j'ai un souvenir qui m'est revenu il n'y a pas très longtemps. Pendant la guerre d'Algérie, nous sommes à Lyon, et mon père rentre de la rue de Lyon un soir. Il a une gabardine blanche tachée de sang, comme ça. Et ma mère hurle. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean ? Jean, c'est l'autre, donc. Et mon père dit rien, j'ai croisé un arabe dans la rue, un bico, dit-il, dans la rue, qui m'a mal regardé, je l'ai dérouillé. Moi, je suis là, je suis en face, et je vois ma mère qui dit, oh là là, ça m'embête parce que tu sais, le sang sur une gabardine, c'est difficile à ravoir. Et tout d'un coup, je viens de ce monde-là. Donc tout ce qui me sépare de ce monde-là, une mère, la seule chose qui l'intéresse, il y a du sang d'être humain sur la gabardine de mon père, la seule chose qui l'intéresse, c'est comment je peux pouvoir nettoyer ça, fuir. Il faut que je m'enfuis, parce que si je ne m'enfuis pas, ces gens-là, soit me tueront, soit je le tuerai.
construire une autre vie. Alors, il y a une question de Sentier Battant. Quel est le rapport avec le célèbre manuscrit médiéval réalisé par des moines de culture celtique? Donc là, ça concerne le livre de Kells,
oui.
Chef-d'œuvre du catholicisme irlandais, écrit-tu page 47. Puis-je te demander de lire un petit passage?
Bien sûr, oui, bien
voilà.
sûr.
Alors,
j'ai mis mes petites lunettes, donc c'est facile.
Voilà, oui. Puisque tu donnes ta réponse ici.
Oui. D'accord. Le livre de Kells, donc chef-d'œuvre du catholicisme irlandais, ce manuscrit a été rédigé en l'an 800 par les moines de culture celtique sur 185 peaux de veau mort-né. Mon ami avait été impressionné par l'histoire de ce trésor, mais moi j'ai été sidéré par sa beauté, ses enluminures, la complexité de ses entrelacs, la puissance humble et noble des couleurs. Ni feuilles d'or, ni pailletées d'argent, rien de la pompe ou de l'orgueil, le dépouillement. Brun de terre, vert émeraude, noir de suie, rose peau, mauve glycine. Ces jaunes que la nature offre, ces rouges qui disent le sang, ce bleu de roche. Et puis ces êtres entrelacés, ces oiseaux, ces chiens, ces démons à cornes, ces lions ailés, ces animaux légendaires, ces monstres prisonniers de volutes comme luttant pour leur vie dans un nid de vipères. Et quand j'ai quitté chez moi, quand j'ai pu partir avec mon sac, mon ami Jacques, qui était mon seul ami en fait, et qui est resté le seul long, m'avait offert une carte postale qui venait de Dublin et qui était une reproduction d'une page du livre de Kells. Et c'est, je trouve ça tellement beau, tellement chaleureux, tellement vivant, tellement plein d'espoir, que non seulement j'ai pris la carte postale avec moi, mais quand je me suis retrouvé dans la rue, avec des gamins comme moi qui étaient en rupture de banc, qui étaient en fuite, et je me suis aperçu que tous avaient un faux nom, un nom de rue ou un nom de guerre, un nom de trottoir, un nom de petit pauvre. Et quand on m'a demandé comment tu t'appelles, toi, j'ai pas dit Sorge, j'ai dit je m'appelle Kells. Et donc ce nom de Kells, ce livre-là, je m'en suis emparé, c'est devenu mon nom de guerre en fait, guerre de la rue. Mais ce qui est un roman, par exemple, puisque on parlait de ça. J'ai cessé de m'appeler Kells dès que j'ai quitté la rue. Quand je suis rentré comme militant et ensuite à Libération, je me suis appelé Sorge normalement. Mais dans ce livre, dans le livre de Kells, je prétends que Kells continue de s'appeler Kells.
Absolument.
En tant que militant et en tant que journaliste, parce que je voulais qu'il y ait une unité de ton et d'histoire pour que le titre du livre tienne. Mais j'ai cessé de m'appeler Kells dès que j'ai eu un toit, une clé dans ma main, je suis redevenu Sorge.
Le chat nous demandait, donc ça veut dire que j'ai failli à mes devoirs, à quel âge tu quittes la rue? 17 ans.
Alors j'ai 16 ans et je quitte la rue 9 mois et demi après. D'abord je passe l'un des pires hivers que la France ait connu, 70-71. C'est un hiver où tout était absolument gelé, la vallée du Rhône, etc. Et là j'ai failli, c'est bizarre, j'ai failli renoncer deux ou trois fois. Rentrer à Lyon comme un soldat vaincu, c'est-à-dire me rendre à l'autre, lever les mains, vraiment lever les mains et m'excuser et prendre, j'allais être puni comme il le devait, mais je ne l'ai pas fait, et même dans le froid, même parce que on s'imagine pas ce que c'est que le froid de la rue ajouté à la faim de la rue, ajouté à la peur de la rue, mais c'est vivre avec une veste, et sous cette veste il y a des cartons, du papier, vous êtes dans les parkings, dans les caves, dans les stations de métro jusqu'à ce qu'on vous jette, et surtout ce qui est terrifiant, c'est que vous n'existez vraiment plus. C'est-à-dire, il n'y a plus un regard sur vous. Vous êtes le béton, vous êtes le trottoir, vous êtes le mur auquel vous êtes adossé. Personne ne vous voit. Heureusement, même si c'est terrifiant, mais heureusement, de temps en temps, il y a une petite dame qui pousse ses enfants en disant, tu vois, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu vas être comme le monsieur. Heureusement, parce que même c'est terrifiant, cette phrase. Mais au moins, ça voulait dire qu'elle me voyait et que j'étais vivant. Donc voilà, donc... Dans le roman, je continue d'être Kells jusqu'au bout. Dans la fiction, dès que j'ai quitté la rue, j'ai enlevé les oripeaux de Kells, mais évidemment, j'ai gardé la carte postale qui m'a beaucoup aidé avec une prise de LSD ou cette carte postale qui est très, très, déjà, qui est hallucinante sans le comprendre rien du tout. Oui. Tout d'un coup, je suis rentré vraiment, j'étais avec les moines copistes du 9e siècle, j'étais avec eux, j'étais couvert d'encre. Et donc le LSD, c'est un empoisonnement de 8-9 heures. Et pendant 8-9 heures, j'étais l'un des entrelacs de Kells et j'étais entouré de serpents, de vipères, etc. Et c'est un souvenir qui est resté impérissable et que je voulais raconter là.
Absolument, et que tu racontes. Il y a aussi ta mère en Angela Davis qui te hante. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu as fait un beau lapsus. Tu as dit dans le roman, oui, j'étais... je suis Kells jusqu'au bout. Oui. Dans la fiction, j'ai quitté les oripeaux.
Ah oui, donc dans la vérité, voilà.
C'est pas grave, non, ça n'a pas d'importance.
Voilà,
passons.
Voilà, monsieur le commissaire, je viens de faire une grosse bêtise là. Mais oui, c'est-à-dire que ma mère, c'était une petite dame, c'était une vraie martyre, une vraie victime. C'est-à-dire non seulement c'était son enfant battu, mais c'était une femme battue aussi. Mais battue, c'est-à-dire que mon père pouvait la frapper à coups de crosse de pistolet, etc. Et elle était toujours grise, elle était toujours dans... C'était pas chez elle, c'était dans sa cuisine. C'était la vieille France terrifiante, avec l'enfant qui n'a pas le droit de parler à table, avec le père qui s'assied avec sa voix comme ça, qui mange la viande, alors que nous, en fait, on n'avait rien. C'était terrifiant. Et dans ce voyage à l'acide, dans ce trip à l'acide, j'ai un journal, c'est Time, un journal américain. Et dans ce journal américain, il y a Angela Davis en photo. Donc, à l'époque, Angela Davis, activiste noire, est recherchée par le FBI parce qu'elle est accusée d'avoir fourni des armes à des Black Panthers.
Sur la photo, elle portait un chemisier bariolé, écris-tu, page 42, « La fabrication d'une fugitive », titré le magazine Life.
Voilà.
Comme si la revue la pensait Life, innocente.
Oui, absolument. Et donc je suis empoisonné par l'acide lysergique, hein, c'est le LSD, et je suis fasciné par cette photo d'Angela Davis qui est face à la foule américaine et qui la harangue comme ça. Et dans la foule, tout d'un coup, je vois maman. Et tout d'un coup, dans la foule, au milieu de tous ces blacks américains, poings levés, etc., je vois ma petite maman. Et ma petite maman qui a pas ses pantoufles, qui a pas son petit son petit tablier de cuisine, et je comprends. C'est-à-dire, je comprends que maman cache Angela Davis en ce moment même à Lyon, dans la cave, dans notre cave, et j'imagine ma mère avec un béret black comme les Black Panthers, avec l'arme dans sa robe, et tout d'un coup c'est terrifiant, parce que en une prise de drogue comme ça, je magnifie ma mère, je magnifie cette petite souris, je magnifie cette victime atroce qui s'est fait battre toute sa vie, et j'en fais mon héroïne et je l'aime. Et la fin de ce trip d'acide, je suis sur un banc, j'ai jeté toutes mes affaires par terre, ça se passe à Lyon, et je crie « Maman, je t'aime !» et je vois tout d'un coup deux policiers qui arrivent
on va y venir.
Vers moi.
Tu vois deux policiers. Mais d'abord, je reste sur la rue, parce qu'il y a quelque chose qui revient. J'imagine que c'est un fait exprès, parce que tu ne laisses rien au hasard quand il s'agit d'écriture, c'est les billets. Tu parles souvent des billets.
Oui.
Et notamment.
Des billets de banque. Hein.
Des billets de banque, oui, pardon. Oui. Tiens, petit, 1 franc, 5 francs. Ça, justement, c'est quelqu'un qui te donne. C'est une femme.
Oui.
Tiens, petit, 1 franc, 5 francs. Et pourquoi pas un billet de 10 ? Oui. L'image sainte de Voltaire, haut en couleur, à perruque, plume, doigt à la main. C'est bien, 10 francs. Ça pose son homme, le voyage, le restaurant, la rose, l'aumône à l'indigent. Ce n'est plus un amant, c'est un cœur sur la main.
Ouais.
Et tu décris plusieurs fois les billets.
Oui.
Et alors je te pose la question.
D'abord, ils étaient beaux. Les billets de l'époque n'avaient aucun rapport avec nos euros. C'était de véritables tableaux de maître. Mais vas-y, pose-moi la question.
Non, mais justement, c'est ça que je voudrais savoir. Est-ce que c'est la nostalgie du billet bien fait Pascal.
Il y avait les chiffres aussi qui étaient à côté. C'est-à-dire qu'un Pascal, je crois que c'était 500 francs, c'était quelque chose, quoi. Et moi, ma mère, pour solde de tout compte, m'a offert 100 francs. Donc, je pense, je suis sûr même, je pense qu'elle les a volés au couple à l'argent du ménage. Elle m'a donné ses 100 francs, mais vraiment pour solde de tout compte, à la gare Perrache, alors que je me sauvais. Je prenais le train sans payer, sans billet, sans rien, mais je partais à la capitale, en gros, dans ma tête. Et ce billet-là, elle me l'a donné comme... mais c'était mon héritage d'amour. C'était un billet de 100 francs, c'est-à-dire... c'était rien. Je crois que je pouvais m'acheter une demi-baguette pendant plusieurs semaines. Et c'est tout. Et c'était terrifiant. Parce que ce billet-là, je me disais, est-ce que j'en aurai d'autres dans ma main un jour? Ou est-ce que je ne vivrai que de pièces? Ou est-ce que je passerai ma vie à tendre la main aux autres? Et ça, c'est une chose qui est importante, parce que j'en parle pas assez. Je trouve, c'est que la rue, elle te quitte jamais. Je suis obsédé par la rue. C'est quelque chose qui me... J'ai encore des rêves de rue, j'ai encore des rêves de solitude, des rêves de nuit, des rêves de bruit, lorsque tout d'un coup, tu as tous tes sens éveillés parce que tu ne sais pas qui va te tomber dessus. Et surtout, il pleut, il fait froid, tu n'as pas de toi. T'as pas de toi, c'est-à-dire que tu es une petite chose de 17 ans qui est promenée comme ça par les événements, par la pluie, par la grêle. Tu as rien, personne. Les gens t'enjambent lorsque tu tombes, et donc le billet de banque, c'est tout ce qui te relie aux autres, aux gens normaux. Mon rêve, lorsque j'étais petit, c'était d'avoir une boîte aux lettres avec mon nom dessus. Mon nom sur une boîte aux lettres. Pas son nom à lui, pas le nom de l'autre. Mon nom sur une boîte aux lettres. C'est pas grand-chose comme rêve d'enfant. Eh ben c'était mon nom. Et je me souviens, quand j'ai fait plein de petits métiers pour vivre, y compris distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres, en banlieue, etc. Et je rêvais, c'est bizarre maintenant quand je le dis, mais je rêvais d'un petit nain dans mon jardin, parce que je trouvais que c'était le summum du luxe, le petit nain dans le jardin, pour moi, ça sert tellement à rien que c'est ce qu'on a en plus, un petit nain dans le jardin. Et je rêvais surtout un petit banc dans le jardin, il y avait un jardin dans mes rêves, et surtout mon nom sur une boîte aux lettres, et si possible, monsieur et madame, ou si possible, un autre nom accolé au mien. Mais c'était mon seul rêve, avoir un toit.
Tu parles, par exemple, sur la distribution de tracts qui peut se faire, alors qui se fait au petit matin, et puis un jour, vous êtes plus payé. Hein. C'est-à-dire que ce que tu racontes,
c'est dégueulasse,
pendant des mois et des mois, c'est que tu es le lumpen prolétariat, au point que quand tu vas avoir ton premier boulot, tu es super fier de te voir avec ton bleu de travail, ton premier salaire ton premier poste, on va dire. Ouais. Et là, tu es super heureux d'être un ouvrier. C'est dire...
Oui, d'où je viens ?
D'où tu viens ?
Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que le fait... Donc, j'étais chez un marchand de meubles, hein, un peu voyou, même un peu très, je crois, qui faisait des faux meubles chinois.
Voilà.
Donc, on les vendait... Enfin, il les vendait. Donc, et à l'intérieur caché, il y avait la fabrication de meubles chinois. C'était moi. J'avais un coup de pinceau, et donc je dessinais des grues, des aigrettes argentées, des rochers chinois, etc. Et je les ponçais, je mettais des acides pour vieillir, etc. Mais en tout cas, j'avais un métier, et là, j'avais le droit de marcher dans la rue, d'être fier. Et j'ai fait une chose que aucun ouvrier ne fait. Je me suis acheté un bleu de travail, tout neuf, avec des plis au pantalon. Et j'allais au comptoir et j'étais ouvrier. C'est-à-dire que c'était enfin... Alors, en plus, bon, j'étais un peu cucu, donc j'avais mis un badge Mao sur mon bleu de travail. J'avais le droit, puisque j'étais ouvrier. Donc, j'étais exactement ce dont on parlait dans notre journal. Et tout d'un coup, j'avais la fierté de l'homme qui gagne son pain. Et ça, pour moi, la fierté de l'homme qui gagne son pain, c'était extrêmement rare. Je ne le connaissais pas, d'autant que j'avais un père qui me disait « Tu ne seras jamais rien, tu seras clochard, etc. » Je ne voulais pas ça. Or, j'avais été clochard. Donc, pendant 9 mois, et tout d'un coup, je devenais ouvrier. Et je faisais partie d'une France ouvrière avec une fierté immense. Immense. Et là, c'était important de laisser 20 centimes au patron, à côté de la petite tasse de café. J'avais la possibilité de laisser 20 centimes, ces 20 centimes que je ramassais dans le caniveau quelques semaines auparavant.
Tu parlais d'un journal, on va y venir, La Cause du Peuple. Alors pour l'instant, il n'y a aucune question, il n'y a que des... Nakwil qui nous dit super interview. Tonhoff ben qui dit un plaisir de vous écouter. Alors soit il n'y a personne, soit les gens sont bouche bée. Je ne sais pas ce qui se passe, mais parce que d'habitude c'est beaucoup plus loquace que ça. Oui. Mais on continue, c'est effectivement un bonheur de t'écouter. Alors on va venir à La Cause du Peuple, le journal oui. Nous, etc. dont oui. tu parlais à l'instant. Mmh. Mais d'abord, évidemment, tu es au poste et très vite, tu nous parles de ta première rencontre à Lyon avec la police, ouais. qui se passe pas bien du tout.
Non.
Et ensuite, d'autres rencontres, jusqu'à, on y viendra ensuite, les bastons avec les flics.
Alors, attends, ça, c'est autre chose. Mais d'abord, ma première rencontre, c'est avec la gendarmerie.
C'est avec la gendarmerie.
C'est pas la police nationale, c'est les gendarmes français. Et en fait, je crois que c'est la plus belle... C'est le plus beau procès-verbal que j'ai eu de ma vie. Et maintenant, je l'ai jeté. Et je m'en veux tellement. Je suis en fugue.
C'est celui que tu as reconstitué, alors.
Voilà. Donc, je suis en fugue. J'ai dormi, je crois que c'est près de Avignon, près de l'autoroute. Je suis près du péage de l'autoroute ou près de l'échangeur autoroutier. Bref, c'est le petit jour. Moi, je crois que je vais partir à Katmandou et Ibiza. Je vais faire la route. Je suis Jack Kerouac. Ça y est, c'est parti. Je vais être le clochard lumineux, etc. Et j'ai une flûte, et en ce moment, j'ai un air de Jethro Tull. La bourrée. Et je me retrouve, je me lève de mon truc dans lequel je dormais, qui était mouillé parce qu'il avait plu. Mais c'est pas grave parce que je vois le soleil qui se lève, je suis debout et je joue comme Jethro Tull, je joue l'air de la bourrée sur une jambe. Parce que l'autre avait, le vrai chanteur avait, et le musicien avait l'habitude de mettre sa jambe gauche contre sa cuisse droite et il jouait sur une jambe comme un flamant rose. Et donc les gendarmes arrivent et c'est terrifiant parce que... Et maintenant, je...
Attends, parce que les gendarmes arrivent au péage.
Au péage, me voient en train de jouer, me demande de ramasser mes affaires, mon sac, tout ce qui était tout mouillé, etc. Me demande combien j'ai sur moi. Et... il doit me rester 80 francs, quelque chose comme ça. Alors que ma mère m'avait donné 100 francs, il me reste 80 francs. Et les gendarmes me disent, c'est exactement le prix de l'amende que l'on va te mettre. Et le procès verbal, c'est profite du péage autoroutier de je ne sais plus quoi pour jouer de la flûte sur une seule jambe. C'est quand même le plus beau procès-verbal que peut dresser.
L'individu a été surpris sur la voie publique et interpellé ce jour par nous-mêmes, jouant de la flûte pieds nus et sur une seule jambe, à l'aplomb du péage autoroutier d'Avignon Sud.
Voilà, et comme le dit l'un de vos auditeurs, c'était Yann Anderson, évidemment, que les gendarmes ne connaissaient pas du tout. Mais j'ai compris après, ils m'ont volé.
C'est
tout
ça.
Ce que j'avais, mais j'ai compris en fait. C'est-à-dire qu'il voulait que le gamin qui était en perdition rentre chez lui. Et donc, le seul moyen que je rentre chez moi, c'est de me couper les vivres. Et donc, je l'en ai voulu atrocement. Et après, je me suis dit, parce que j'ai le souvenir du vieux gendarme qui peut-être avait un gamin de mon âge, c'est pas ce qu'il avait fait, le gamin. Mais en tout cas, je sentais que c'était un gendarme qui voulait simplement, il voulait pas me faire de mal, il voulait pas me faire de peine, mais il voulait que je rentre chez moi à Lyon, chez Guignol. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement important, mais je l'ai compris plus tard. En tout cas, ma première déconvenue avec la police nationale, donc la gendarmerie, pour le coup, c'était eux.
Et alors, tu parles de Guignol, parce que justement, on rejoint les petits bouts. Tout à l'heure, tu prends cet assis, tu nous as raconté ton délire. Oui. Et effectivement, ce délire s'arrête parce qu'il y a un gardien du jardin.
De square qui les a appelés.
De square qui les a appelés, qui a appelé deux policiers. Là, le coup classique, le gentil, le méchant. Et le gentil...
Alors moi, je n'ai pas compris tout de suite. Hein.
Voilà.
Je vois celui qui vient me voir et puis celui qui dit, bon, allez... On l'embarque, ça suffit. Et l'autre qui me regarde, qui me dit « Tu es à la rue, toi ?» Et je dis « Pas du tout. Enfin, j'ai encore un mal à parler à cause des effets de la drogue. » Donc il me regarde, il a compris. C'est un vieux flic, mais ok, d'accord, il a compris. Et il apprend que je suis de Lyon.
Et voilà. Et là,
et
tout
je tombe sur un mec de Lyon, c'est un flic de Lyon. Il m'appelle Gunn. Tout de suite, et moi, Gon, mon Dieu, personne ne m'avait appelé Gon. Et je tombe
Gon,
sur...
Gon, ça veut dire gamin, c'est ça?
Gamin, ouais, c'est le petit Gon de Lyon. Ouais. Et ça y est, je vais prendre l'accent maintenant. Et et il ne m'emmène pas, contrairement à ce que l'autre flic voulait, il ne m'emmène pas, il me demande de me reposer, de m'asseoir sur le banc. Le gardien fout de rage. Écoutez, il est en train de hurler qu'il aime sa mère, il jette tout partout, par terre, etc. Et vous ne l'emmenez pas. Et le gentil flic, parce que c'était un gentil flic, qui dit, ben non, on ne l'emmène pas, il faut qu'il se repose un petit peu. Et il me regarde et il me dit, toi, tu sais ce qu'il faut que tu fasses ? Va travailler. Travaille, je t'en supplie. Je ne veux plus te revoir comme ça. Et j'ai trouvé un vieux gonne qui parlait à un petit gonne. Et ça a été bouleversant pour moi parce que je suis rentré, je me suis frotté aux premiers uniformes par la bonne porte. Il y a un autre moment... peut-être qu'on, enfin, on peut peut-être en parler, où je suis dans une chambre d'hôtel,
d'hôtel,
on est
absolument
entassés les uns contre les autres, on écoute le nouveau Pink Floyd, et tout le monde fume, il y a un peu de sniffette, un peu de piquette, etc. Évidemment, les gens de l'hôtel se plaignent, même si c'est un hôtel borne, mais les gens se plaignent, et quand les flics rentrent, on est une quinzaine, vingtaine, allongés les uns sur les autres, en train de crever, en fait, hein. Et les flics, là, sont extrêmement brutaux, c'est-à-dire qui nous frappent, etc. Et ils font une haie d'honneur du deuxième étage de l'hôtel où nous étions jusqu'à la rue et jusqu'au car de police qui était à droite. Je veux qu'on m'explique.
La haie d'honneur au sens iranien et chilien du terme, c'est-à-dire on bastonne.
Des petites tapes. Ouais, mais c'était pas très dur. C'était allez, dépêche-toi, dégénéré, etc. C'était des trucs comme ça. Mm-hmm. Et moi, je suis le tout premier. Je sais pas, j'ai un instinct animal. Je sais que si je reste au fond, dans la fumée, avec les types qui jetaient leur herbe par la fenêtre, dans les toilettes, moi, il fallait que je parte, que je quitte le premier, cette chambre. Et je me lève, je quitte, j'avais un petit sac, mon sac de vie. Je quitte la chambre le premier. Allez, oust, je descends les escaliers avec les policiers qui montent les escaliers parce qu'il fallait du renfort. Et j'arrive en bas. Et le car est à droite ou à gauche, mais en tout cas, il est d'un côté. Et il y a un policier qui me voit sortir de l'hôtel, qui me voit le regarder et qui me voit lui tourner le dos. Et je vais en sens inverse. Je ne monte pas dans le car. Je joue, je réfléchis même pas. Je joue le tout pour le tout. Je vais en sens inverse et je m'en vais. Et je m'en vais tout doucement, je tourne le coin, un coin, deux coins, trois coins, et je cours. Donc c'était en plein Paris, je cours. Ce flic m'a vu, ce flic m'a laissé partir, ce flic ne m'a pas interpellé. L'autre flic, il m'a appelé gonne, il m'a aidé. Pourquoi ? Qui sont ces gens ? Et j'étais loin de me douter que ces mêmes gens, ces mêmes uniformes, peu de temps après, nous les affronterions de façon la plus violente. Mais moi, toute ma vie, je me souviendrai de ces deux policiers qui, à un moment donné, ont laissé sa chance au gamin de 17 ans que j'étais. Alors qu'ils pouvaient, ils auraient pu me mettre... C'est-à-dire, voilà, j'étais pris, j'étais arrêté, drogue, flic, empreinte, et puis voilà, c'est fini. Et puis là, tout d'un coup, je me retrouve seul dans les jardins de Cluny, à courir le long, et, je hurlais de bonheur. Et je le regard de ce policier, il m'a vu descendre, il m'a regardé hésiter, il m'a regardé lentement me tourner, il m'a regardé passer la rue, tourner, courir, sans m'arrêter. Pourquoi ? Et je n'aurai jamais la réponse. Mais pour moi, ça me bouleverse.
Tu vas rencontrer rapidement la gauche prolétarienne, on va y venir, mais... Sentier battant rebondit. Du coup, à CAB ou pas à CAB, Monsieur Chalandon ? Est-ce que vous dénoncez les violences policières ?
C'est-à-dire qu'après, on a passé plusieurs années quand même de violences extrêmes. C'est-à-dire que c'est pas sur les policiers que l'on frappait. On frappait sur les policiers lorsqu'ils nous empêchaient d'atteindre. j'ai failli dire action directe, mon Dieu, parce que je viens de finir un papier sur Action Directe. Lorsqu'ils nous empêchaient d'atteindre Ordre Nouveau, qui étaient les parents du Front National, qu'on rappelle toujours, mais il faut toujours le rappeler, notamment créé par un Waffen-SS, et les parents aussi, les grands-parents du Rassemblement, nous, on ne voulait pas taper les flics, ce n'était pas le problème. Nous, ce qu'on voulait, c'est que les antisémites, les racistes, ces gens-là, on voulait les frapper en face. Et si la police nous en empêchait, ben, tant pis pour eux. Et donc, ça a donné des bagarres que l'on n'imagine pas du tout aujourd'hui. C'est-à-dire que si on prend le Palais des Sports en 1971. Donc, Ordre Nouveau fait un grand meeting au Palais des Sports. On l'attaque. Alors, c'est qui on ? Ben, il y avait toute l'extrême-gauche, l'ultra-gauche, comme on dit maintenant. Je déteste ça. Les mots que la presse utilise, je trouve ça me fait gerber. C'est pas grave. Mais enfin, disons qu'il y avait toute la gauche ultra, d'accord, ou extrême, mais ça veut dire que ce jour-là, nous étions 5 000 armés avec des barres de fer, des bombes incendiaires, il y avait de tout, des grenades d'exercice avec dedans de la limaïde de fer, etc. etc. 5 000 en face, Ordre Nouveau, ils étaient 5 000 aussi, pareil, avec des casques, des lances, etc. Les policiers, ils étaient 4 000, 5 000. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'on est dans deux rues de Paris, et vous avez une guerre. C'est-à-dire que tout brûle, c'est-à-dire qu'on s'était emparé du canon à eau, de la police, c'est une sorte de guerre terrifiante. Et là, si les policiers n'avaient pas été là, parfait, on rentrait au Palais des Sports. Ils nous empêchent de rentrer au Palais des Sports. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on les charge. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça. Je l'ai plus jamais revu. Les policiers qui étaient très nombreux en ordre de bataille, et nos chefs à nous disaient attention, on y va. Et c'est nous qui chargeons la police. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Et les policiers, le visage. Tellement surpris que ça soit nous, les gauchistes, PD, imbéciles, etc. Parce que c'était ça le truc. Il y avait, j'en avais marre d'entendre d'un côté, il y a l'extrême droite, les rasés, les gros biscottos, etc. Et puis nous, c'était les petites lavettes, etc. Les lavettes, elles vont vous faire courir, mais courir plus vite que vous ne l'imaginez. Et notre bonheur à nous, c'était pas du tout de dire oh, on frappe les flics, c'est pas ça notre bonheur. C'est on interdisait aux racistes, aux antisémites, à ceux qui faisaient chier les noirs, les immigrés, à tous ces gens-là, on leur interdisait d'élever le ton. Et ce qu'on voulait, c'est que la peur, elle change de camp. Que la peur change de camp. C'était notre volonté absolue. Il n'y a rien de meilleur qu'un type d'extrême droite, avec son casque, etc., qui court. Le bonheur de le voir courir en disant « Non, non, je n'étais pas à la manif. » « Mais c'est bizarre, pourquoi t'as un casque alors ?»« Mais je fais de la moto. » C'est un bonheur que la peur change de camp. Ça pour nous, et j'ai 73 ans aujourd'hui, ce bonheur, je l'ai toujours. C'est-à-dire que je ne supporte... Alors, je suis un peu moins... agile. Mais je ne supporte pas du tout si quelqu'un rentre dans un métro, dans un truc en disant « Oh, ça pue l'arabe ici », mais il sort. Et je ne vais pas lui expliquer encore que ça ne se dit pas, que ça ne se fait pas. Je veux qu'il ait peur. Je veux qu'il sorte de... Je ne veux pas dans ce métro de quelqu'un comme ça en face de moi. Ça ne sert peut-être à rien. La violence n'est pas le moyen, on ne fait pas justice soi-même. D'accord, j'entends tout ça, mais je veux qu'il s'en aille. Je ne veux pas qu'il soit nulle part là où je vis. Et ça, c'est une chose qui ne me quittera plus jamais, je pense. Tous les gens qui oppriment, tous les gens qui ridiculisent, tous les gens je veux que ces gens-là réfléchissent à deux fois. On voulait tous qu'ils réfléchissent à deux fois avant de recommencer.
On te suit dans ton livre, rencontrer d'abord des gens qui hurlent dans la rue. C'est les gens qui vendent un journal, ça s'appelle
La cause du peuple.
Mmh. Aux côtés d'une gare. Alors, c'est au bout de la deuxième ou troisième fois que.
Je me rapproche tout doucement.
Il y a un copinage. Oui. Et donc, c'est avec eux que tu vas te former politiquement. Puisque,
absolument.
Page 56, avant de les connaître, je ne connaissais rien aux révolutions, mais j'aimais l'idée de la ville qui s'embrase. Mmh. Et puis eux, ils vont te dire bah écoute, on sait faire des cocktails Molotov, veux-tu ? Et donc tu nous donnes
Viens
les recettes.
Là, petit bonhomme.
Tu nous donnes les recettes. Oui. Ça se passe pas loin d'ici, à Jussieu, l'autre fac d'amis de
ce. Ça s'est passé aussi ici. Hein.
Ici,
plusieurs fois. À Jussieu, à Sancier, à Vincennes. Oui.
Voilà. Et donc tu rencontres, et donc la gauche prolétarienne, donc pour le dire vite, c'est quand même les Mao qui vont rester le plus dans l'histoire. Oui, me semble-t-il.
Oui, mais alors c'est extrêmement important parce que il y avait des Mao que je ne supportais pas. C'est ce que nous appelions soit les religieux, les dogmatiques qui nous emmerdaient. C'est-à-dire ils n'avaient que Mao à la bouche, la Chine, etc. Nous, c'était pas ça notre problème. C'est-à-dire que dans la cause du peuple, c'est de la France dont on parlait. C'est ce que je disais, c'est que partout où il y avait oppression, quelque part, il y avait résistance. Si par exemple, un petit patron ou un petit, même un petit chef d'atelier faisait chier des femmes à l'usine, on y allait et on le corrigeait. C'est pas bien, c'est pas normal, il faut pas faire ça. Mais ce qu'on voulait, c'est qu'il ait peur. Quand un directeur d'école a viré deux jeunes lycéens qui s'embrassaient dans une cour d'école, nous y sommes allés et le directeur s'est retrouvé sans pantalon avec le sexe et les fesses peints en bleu. C'est pas bien, mais avant qu'il recommence, je veux qu'il sache ça. C'est-à-dire que chaque fois, notre idée, c'était que avant de dire une saloperie, une connerie, un truc dur, etc., que quelqu'un se dise, faut quand même faire peut-être gaffe, il y a peut-être les Mao dans le coin. Sauf que les vrais maoïstes qui étaient là, la Chine, et qui lisaient Pékin Information, nous appelaient les Mao Spontex. Parce que nous, la Chine, on s'en foutait, en fait. Et c'était une sorte d'anti-autoritarisme spontané. Alors, c'était un peu désordonné, mais c'était joyeux. C'était une sorte de joie permanente. Et surtout, la plus importante, c'est la joie de voir nos ennemis défaits ou nos ennemis avoir peur. Ça, c'est une chose que je n'oublierai jamais. Ce sont des gens qui attaquaient très violemment, notamment les manifs de femmes, sales putes, etc. Et ces gens-là qu'on retrouvait dans les rues après, et nous étions supérieurs ou inférieurs en nombre, c'était pas grave, et tout d'un coup, ils avaient peur. Il y en a qui se mettaient à genoux, et ça, c'était un vrai bonheur. Je ne dis pas que c'est bien, encore une fois, parce que la violence, nous avons été au bout de la violence, avec la mort de Pierre Auvernet, dont tu parlais tout à l'heure, et on est revenu de la violence. Mais en tout cas, à ce moment-là, dans les années 70, c'est ça qui est important. Tout le monde était violent. Alain Madelin, les futurs ministres, Alain Madelin, Gérard Longuet, etc., étaient dans la violence à l'extrême droite. C'est-à-dire que toute la violence était un moyen d'expression comme un autre. Enfin, c'était assez terrible, mais tout était violent. C'est-à-dire qu'on ne disait pas hein, « ils sont violents ». Non, c'était un moyen de dire les choses. Et dans ce moyen de dire les choses, on s'inscrivait là-dedans. Mais nous avions l'impression, à juste titre, que nous répondions à la violence des patrons qui viraient des ouvriers sans rien comme ça, des faiseurs de sommeil, des négriers qui entassaient les travailleurs immigrés dans des petits logements insalubres où ils crevaient faute de chauffage, etc. Tous ces gens-là, il y a un moment donné où il fallait qu'ils sachent, c'était pas de la justice, je déteste le mot justice populaire, mais qu'ils sachent qu'on ne laisserait pas faire, qu'on ne laisserait jamais faire, et qu'on ne laissera jamais, enfin on ne laissera jamais faire si on a abandonné tout ça.
Exactement, tu as une phrase terrible où tu dis...
On leur a laissé la rue.
On leur a abandonné la rue. Oui. L'heure, c'est les fachos, en fait.
Leur a abandonné la rue, c'est-à-dire que moi, je... Oui, c'est-à-dire que vous verrez vers la fin du livre, il y a une chasse à l'arabe en France qui a été incroyable. Absolument. C'est-à-dire il y a des centaines d'arabes qui ont été tués à Nice, à Marseille, Orange, etc. Mais des arabes, c'est-à-dire des travailleurs agricoles, parce qu'ils prenaient le pain des Français. Et donc, brusquement, il y a toute une chose qui ressort de l'Algérie française avec la police complice, etc. Il y a des meurtres d'arabes et nous, on a arrêté. C'est-à-dire, nous, on a quitté la rue. Et ça m'a bouleversé il y a quelque temps, cette manifestation de jeunes gens d'extrême droite dans la rue, qui n'ont même pas... Enfin, il y a quelques croix celtiques bien de chez nous, si je puis dire, mais il y avait des runes nazies sur les drapeaux. Et les deux tambours qui ouvraient cette marche, une marche au tambour, quand même, il y a très longtemps que l'on n'avait pas vu ça, les deux tambours qui ouvraient cette marche avaient été peints exactement à l'image des tambours des jeunesses hitlériennes et la police française qui laisse passer ça et qui tape sur ceux qui protestent contre ça. C'est terrifiant. Et là, tu te dis, peut-être qu'on est parti un peu tôt quand même. Peut-être qu'on est parti un peu tôt.
De bonne tête, souriante, intelligente, écris-tu page 164. Là, il s'agit de tes nouveaux amis, oui. Dont l'un d'eux va te donner une clé.
Va me louer son appartement.
Son appartement, ouais. Exactement. Donc, tu sors de la rue. Ils te font sortir de la rue pour mieux t'y faire aller combattre. Et tu écris, Marc était l'un d'eux, l'un des 20 000 salariés de l'usine Renault. Ouais. Et ses amis, encore étudiants, ouvriers, intellectuels. J'aimais bien ce mélange. Et aussi le fait qu'il vivait en pleine lumière, pas comme moi, dans l'obscurité d'une cave.
Oui.
Donc ça, c'est le moment de bascule.
J'étais un rat, véritablement, un rat inconnu, visible par personne, et tout d'un coup, je me retrouve avec des jeunes, alors, dont j'apprends que leur journal, il est interdit. J'apprends qu'il y en a certains qui vivent dans la clandestinité. J'apprends qu'ils ont la violence, non pas pour matrice, mais en tout cas pour expression. Mais ça me va, parce qu'ils sont en pleine lumière. Et surtout, il y a une chose qui me... Alors ça, je pense qu'on en parlera, mais leur erreur me fascine, parce que je la prends pas pour une erreur. L'erreur, c'est... La guerre n'est pas très loin encore. Moi, je viens d'une époque où, en classe, on demandait ce que le papa avait fait pendant la guerre. Ce qui se fait plus aujourd'hui du tout. Normal. Mais en tout cas, moi, je rentre dans un groupe un peu militaro, comme ça, qui se dit descendant de la résistance française. Qui se dit qu'il faut reprendre les armes que des traîtres nous ont volées en 45. Qui se dit qu'il fallait passer de la libération de la France à la révolution qui n'a jamais été faite. Et ça me va. C'est-à-dire que lorsqu'on marche dans la rue, même lorsqu'on va au combat contre l'extrême droite, on chante « Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux ?» C'est-à-dire, nous avons la certitude que nous sommes les nouveaux partisans. Nous avons la certitude que nous sommes de la lignée de nos anciens qui ont déposé les armes, etc. etc. En cela, on se trompe. Mais il aura fallu la mort de Pierrot Vernet pour qu'on se dise « Mais attends, tu vends la cause du peuple. » Mais il est où le peuple? Tu le vois, le peuple, toi? Il est où, le peuple? Et moi, ça m'avait terrifié et en même temps beaucoup fait réfléchir dans cette grande bagarre. Donc, dans cet affrontement terrible au Palais des Sports. La rue brûle. La rue brûle, littéralement. C'est la guerre. Nous sommes en guerre. C'est-à-dire, Alain Gesmard et Serge Julie ont écrit notre bréviaire vers la guerre civile. C'est vers la guerre civile, et c'est la guerre.
Donc, ils sont les chefs.
Les chefs de
la gauche prolétarienne.
Voilà.
Ils ont écrit vers la guerre civile.
Alors, c'est pas qu'on se prépare à la guerre civile, c'est que la bourgeoisie va nous obliger à la guerre civile, et il va falloir y répondre. Donc, il y a ces affrontements qui sont terribles. Et tout d'un coup, ce qui est terrifiant, et ce qui me terrifie totalement encore maintenant lorsque j'y pense, c'est qu'on dispersion, donc on court un peu dans toutes les rues. L'ADN n'existe pas encore, monsieur le commissaire. Donc, on peut jeter nos barres sans problème, sans qu'ils retrouvent qui avait pris la barre. Mais 5 rues plus loin... Et bien, 5 rues plus loin, il y a un petit couple sur un banc qui dit « Je t'aime, moi aussi, je t'aime ». Il y a une maman qui achète une baguette pas trop cuite pour la maison. Il y a une petite fille qui dit « Je peux avoir, s'il te plaît, un pain au chocolat ». C'est la paix. C'est-à-dire que brusquement, tu te rends compte que cette guerre qu'on vient de vivre tellement violemment, elle n'existe que dans nos têtes. Et elle n'existe que dans un lieu extrêmement restreint du reste de la vie. Et la vie, bah, c'est pas la révolution, c'est remplir son réfrigérateur.
Il y a...
Et ça, c'est terrible parce que tu t'en rends compte.
Il y a un mutilé par la police qui revient souvent.
Oui, Richard Deshaies.
Peux-tu en parler?
Bah, Richard Deshaies, donc c'était pas un Mao, il était à VLR. Alors VLR, ça s'appelait...
On va commencer par les gars. Vive la révolution.
Vive la révolution, qui avait un formidable slogan, c'est « Qu'est-ce que nous voulons tout, quand tout de suite ?» Voilà, ça au moins, oui. C'est clair. Et c'était une manifestation pacifique. Il ne se passait rien du tout. Et là, un policier, avec un lance-grenade, a tiré pour tuer. C'est-à-dire qu'il était de coutume à l'époque, alors de moins en moins, mais il fallait que le lance-grenade soit dirigé vers le sol, que la grenade rebondisse, etc. Là, il a tiré à tir tendu et Richard Deshaies, jeune étudiant, a pris la grenade dans le visage. Et la photo de ce jeune étudiant ensanglanté a été dans toutes nos chambres, a été dans les rues, a été sur les affiches, les posters, et nous a donné à tous un sentiment d'injustice absolue. C'est-à-dire que si, dans les grandes bagarres contre la police, lorsqu'on était armé, si on était frappé, c'est normal. Si on se retrouvait à l'hôpital, c'est normal. C'est-à-dire, tu vas pas, si t'as un casque et une barre, si un flic qui te tabasse par terre, tu vas pas dire, c'est dégueulasse, c'est normal. C'est la guerre, on frappe, il frappe, etc. Mais là, Il se passe rien. Là, c'est juste des jeunes qui marchent, qui ont des petites fleurs, des trompettes, poète, poète, etc. Et tout d'un coup, d'une façon extrêmement violente, ils se vengent de quelque chose. Et ils ouvrent le feu. Et là, ces policiers-là m'ont fait presque oublier celui qui m'a aidé dans la chambre d'hôtel, celui qui a fait comme s'il ne me voyait pas, celui qui m'a traité, enfin qui m'a appelé le gun et qui m'a demandé de travailler. Tout d'un coup, j'ai vu l'autre policier, l'autre police, pour laquelle nous étions un véritable ennemi. Cette phrase formidable de Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, qui dit que la prochaine fois, je demanderai à mes hommes de tirer dans le tas. C'est extraordinaire. Imaginez-vous aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui dit, si encore des émeutes comme il y a eu, je dis n'importe quoi, les Black Blocs, etc., je demanderai à mes hommes de tirer dans le tas, entre guillemets. C'est inimaginable. C'était l'époque. Et bien, lorsque des policiers sont prêts à tirer dans le tas, ils ont en face d'eux des jeunes qui essayent de les contrer.
Pour la première fois, écris-tu page 191, j'ai vu la haine dans le regard des flics, des bouches tordues, des coups de Rangers, pour rien sur des corps à terre, les complices de l'autre,
mon père,
une armée de pères qui battaient ses enfants.
Absolument, une armée de pères qui battaient ses enfants. Pour moi, alors, je ne suis pas que ça, je ne suis pas que ce que mon père n'était pas, évidemment.
Bien sûr,
que,
bien sûr.
Voilà. Mais c'est vrai que chaque fois que je me battais contre un raciste, un antisémite, c'est aussi mon père que je corrigeais, chaque fois. J'ai vu l'ennemi de près. C'est-à-dire que moi, j'étais un enfant battu, c'est-à-dire que j'avais... Alors, pour mon père, donc, qui a été notamment dans l'armée allemande pendant la guerre, chaque fois qu'il me frappait, il hurlait en allemand, pas en français. Mmh. Donc moi, lorsqu'on dit « Mais qu'est-ce que tu connais du fascisme, etc. ?» Moi, j'ai été battu en allemand par un Français qui était dans l'uniforme, avec qui avait un uniforme allemand, et donc les coups de ceinture de mon père que j'ai pris, c'était des coups, c'était une pour moi une concrétisation de ce que c'était que le fascisme et l'extrême droite. Alors le fascisme italien, je sais, ça n'a aucun rapport, mais de ce que c'était en tout cas que l'extrême droite violente. Et cette extrême droite violente, puisque mon père n'était plus là, il fallait qu'elle paye d'une façon ou d'une autre, parce que je ne voulais pas que mes filles, que mes enfants, que les gens que j'aime soient battus par elles aussi. Je ne voulais pas que les gens que j'aime se retrouvent dans la position qui a été la même. Et ce qui était important, mais fondamental pour moi, c'est que pendant tout le temps où j'ai été dans la rue, j'ai combattu pour ne pas être une proie. Et chez les Mao, je combattais pour ne pas être un prédateur. Entre les deux. J'avais la possibilité d'être un prédateur parce que j'avais de la violence en moi qui me le permettait, mais je ne voulais pas. Je voulais ni être une proie pour ceux qui étaient plus forts que moi, et je ne voulais pas être un prédateur pour ceux qui étaient plus faibles. Et c'était ça pour moi, être de gauche.
Est-ce que, en t'écoutant, j'ai l'impression que tu mènes ta vie comme tu écris, c'est-à-dire que tu cherches toujours la part d'humanité?
C'est tout ce qui me reste, oui. Oui, mais je cherche la part...
Y compris quand elle n'existe plus.
Y compris lorsqu'elle n'existe plus, et y compris chez des gens, chez des gens qui la cachent ou qui la nient. Ou... Moi, je suis toujours intéressé d'abord par savoir ce que pense mon adversaire ou mon ennemi, et savoir pourquoi est-ce qu'il pense ça. J'ai fait un jour, bon, c'est... anecdotique. Mais j'ai fait un jour Libération, donc où nous étions tous les deux, m'avait demandé de faire un reportage chez les gens du Front National du Puy-en-Velay. Pas ceux qui votaient Front National, ceux qui se présentaient pour le Front National. Et donc, j'y suis allé, franco, et je suis allé...
C'est le cas de le dire.
J'y suis allé en tant que Libération, et je me suis installé avec eux, et avec eux dans les voitures. Je prenais des pierres, etc. C'est-à-dire, c'était... Un bonheur non dissimulé, mais en tout cas, voilà, j'étais avec eux parce que je voulais qu'ils m'expliquent. Tous avaient la même blessure, c'était la guerre d'Algérie, tous, et une femme qui était d'un racisme épouvantable. Vers la fin de mon reportage, plusieurs jours, hein, on avait bu ensemble, beaucoup, picolé. Elle avait un certain âge, hein. Et elle écrivait des poèmes, donc elle m'a lu des poèmes, c'était des petits poèmes de Mirliton comme ça. Et je lui dis, mais ce racisme, il vient d'où ? Et elle s'est effondrée, Et elle m'a dit, ben en fait, quand j'étais jeune, j'étais amoureuse d'un Marocain magnifique. Puis il m'a laissé. Et depuis, je les hais. Et tout d'un coup, tu te dis, merde. Mais c'est ça. Ça peut pas être que ça, quand même. Et t'es terrifié parce que tout d'un coup, tu es au cœur de quelque chose que tu ne soupçonnais pas, qui est pas de l'idéologique. C'est une dame poétesse qui était amoureuse d'un arabe, qui estime avoir été trahie par cet arabe et qui depuis déteste les arabes. Et là, t'as envie de pleurer. T'es sur le cul. Enfin, tu te dis, mais c'est ça. C'est tout ça. Tout est comme ça, peut-être. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant. Mais ça m'intéressait de le savoir. Je serais passé juste à côté de cette conne qui criait mort aux Arabes, etc. J'aurais pas su ça. J'aurais pas vu cette dame pleurer. J'aurais pas vu cette dame picoler. J'aurais pas vu cette dame triste. J'aurais pas entendu ses petits poèmes. Et je serais passé à côté de quelque chose qui est comment est-ce qu'on devient comme ça? Et pourquoi est-ce qu'on devient comme ça? C'est pas pour ça qu'on ne la combat pas. Mais au moins, on connaît des ressorts qui étaient insoupçonnés au départ.
Tu te retrouves donc avec tes amis, tes copains, vous faites les 400 coups des Mao qu'on connaît, etc. Et puis se pose la question du militarisme. Et tu rejoins ce que les chefs, certains chefs, appelaient les militaros débiles.
Ouais. C'était pas un compliment. Hein.
C'était pas un compliment. Non. Donc, c'est-à-dire, parce que là, on va aller à grand trait.
Ouais.
C'est le moment où est-ce que la France va, comme en Italie et en Allemagne,
oui,
aller dans une violence politique,
oui,
c'est-à-dire le choix des armes.
Bah, il faut être clair, est-ce qu'on va tuer ou pas?
Voilà. Toi, on ne sait pas trop, c'est un roman, tu noyautes, tu grenouilles, pas loin, mais bon, puisque...
Voilà,
voilà, on laisse faire le...
Il y a prescription.
Il y a prescription. Qu'est-ce qui se passe en fait à cette époque-là? Est-ce que tu peux nous raconter?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que d'abord, ce qui se passe, c'est que il est où le peuple?
Oui.
Première chose. C'est-à-dire que si on avait attaqué le meeting d'ordre nouveau, non pas 5000 jeunes, mais à 80 000 personnes, il était là, le peuple. Sauf que, ben non, nous étions seuls. La deuxième chose, c'est que... on n'avait rien à expier, nous. Nos parents n'avaient pas été nazis pendant la guerre, ils n'avaient pas été fascistes pendant la guerre. On n'était pas les Brigades Rouges, on n'était pas la Fraction Armée Rouge. Et notre France à nous, c'était celle de l'Affiche Rouge, c'était celle de Manouchian, c'était celle de Guy Moquet, c'était celle de Jean Moulin. C'est-à-dire que l'on n'avait rien à se reprocher. Donc, nous n'étions pas vraiment des nouveaux partisans. Je veux dire, crier CRS SS, je trouve, c'est un mot, moi, j'ai jamais pu, parce que si un jour l'État français décide de l'extermination d'une partie de la population parce que sa race ou sa religion, etc., d'accord, on pourra... Mais ce sont des mots que je me suis interdit parce qu'il ne faut pas désacraliser les mots. Les CRS sont une chose, les SS sont d'autres choses. C'est facile, le slogan est simple. Alors, mes potes, ils me disaient, mais alors, il faut crier quoi? Je disais, ben, tu peux crier CRS égale CRS. Parce que le mot CRS porte en lui la violence, la brutalité, tu peux déjà dire ça. Mais c'est complètement con. Écoute, moi, je fais ça, en tout cas. Et petit à petit, il y a eu des choses qui nous ont remis d'aplomb, disons. C'est pas la violence qui nous crée un problème, c'est le fait d'avoir l'impression que cette violence était légitimée par la fin de la Seconde Guerre mondiale et qu'on avait le droit, au nom de la résistance française, de recommencer. Puis il y a eu la mort de Pierrot Vernet.
C'est ça.
Et Pierrot Vernet,
24 ans, ouvrier.
24 ans, ouvrier maoïste de l'usine Renault-Billancourt, qui distribue des tracts en février 1972. Alors, qui distribue des tracts de façon un peu sportive. Faut quand même pas, on va pas jouer aux enfants. Mais donc, l'idée, c'était de bousculer un peu les vigiles et de distribuer des tracts antiracistes. Et pour commémorer Sharon ou des ouvriers arabes protestants contre la guerre en Algérie, ont été assassinés par la police française pour protester pour l'anniversaire de Charonne, distribuer des tracts pour appeler une manifestation le soir. Et Pierrot Vernet, comme les autres, le but était de rentrer dans l'usine et de distribuer des tracts à l'intérieur de l'usine.
Usine dont il avait été limogé.
Absolument.
Parce qu'il était un petit peu activiste, le garçon.
Il était un petit peu activiste, c'est-à-dire qu'il avait été limogé de Citroën, je crois.
C'est ça, c'est ce que tu
Voilà, il était. Mais c'est un vrai fils d'ouvrier, parce que la bourgeoisie, après, c'est complètement dégueulasse. Ils ont dit que c'était un fils d'intellectuel, des parents profs et tout. C'était salir. C'était l'époque des fake news dégueulasses, alors que ça n'existait pas encore. Et Pierre.
Attends, tu vas trop vite. La presse a relayé des mensonges de la police.
C'est de bonne guerre, tu vas dire ?
Moi, dire ça ?
Non, mais je ne sais pas.
Non, je dis, je sais pas. C'est marrant comme il y a des pratiques qui continuent.
Mais qui n'ont jamais cessé. Qui n'ont jamais cessé. Mais donc, Pierre distribue les tracts et Tramoni, qui est le chef de la sécurité, prend son pistolet automatique. Il avait toujours un pistolet automatique sur lui, le pointe sur Pierre, et dit « Si tu fais un pas de plus, je tire. » Et Pierre lui dit « Bah, tire. » Et il tire. Pierre meurt. Et Pierre meurt, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le soir même, il y avait la grande manifestation à laquelle Pierre appelait. La première chose que l'on a faite, on a désarmé la manifestation. La police savait qu'elle serait armée, donc comme les grandes manifs qu'on avait faites, la police savait qu'elle serait armée. Nos chefs sont arrivés à Jussieu, à Sancier, partout, en disant « on désarme ». On désarme, ça veut dire qu'il n'y aura pas de barre de fer, il n'y aura même pas de casque. Moi, avec les copains militaro-débiles, on a essayé de passer des grenades d'exercice dans lesquelles on avait mis des clous, etc. Mais on s'est fait insulter par les chefs. Quand on désarme, quand on vous dit « on désarme », d'accord ? Donc on a tout désarmé. Sauf que la police ne savait pas que l'on désarmait. Et l'idée des chefs, c'était il n'y a qu'une victime, c'est Pierrot et nous. Si par hasard ce soir c'était armé et qu'un policier par exemple soit tué, tu aurais un policier d'un côté, Pierrot de l'autre, un partout, c'est pas possible. Il n'y a qu'une seule victime, c'est Pierre. Et cette manifestation-là, ça a été l'une des plus violentes que j'ai vécues de ma vie. On a tous été mais exterminés sous les voitures, frappés. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que l'on ait rien et on n'avait rien.
Alors, l'assassin de... Alors, un élément important, oui, Tramoni, un élément important que tu rappelles, c'est qu'il se trouve, au moment de la mort de Vernet, qu'il y a un photographe de l'AFP...
Oui, absolument. De Libération.
Ah, déjà. L'agence Libération.
Il est là.
Il y a deux photos, en fait.
Voilà. Il y a deux photos, et puis une troisième où Pierre est à terre. Voilà. Et c'est là où on voit que Pierre ne menace pas. C'est-à-dire, voilà. Pierre a effectivement un bâton dans les mains, mais même s'il abaissait le bâton, il est à plusieurs mètres de Tramoni. Donc Tramoni va tirer en plein cœur alors qu'il n'est pas menacé.
Alors, c'était important de le préciser. Ce Tramoni, ce tueur, Jean-Antoine, sera lui-même assassiné plus tard.
C'est vrai.
Et tu expliques que tu commences déjà à prendre du recul par rapport à tes amis, parce que au moment de la mort de Pierrot Vernet, les copains, oui,
ouais,
puisque
les
c'était
votre
terme.
On s'appelait pas les camarades. On s'appelait les copains. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les copains?
C'est comme ça qu'on s'appelle. Tu prends un peu de champ. En tout cas, parce que tu n'es pas d'accord avec l'idée de vengeance, puisque l'idée était de dire « Pierre, nous te vengeons
oui. ». Je criais aussi, mais quoi ? On va tuer deux vigiles, et puis les vigiles vont tuer trois jeunes, et puis la police va en tuer quatre, et puis donc on va tuer un policier. On va où, là ? On va où ? Et ça a été la première réflexion immense que l'on a tous eue. Et donc là, je vois que Sentier battant en parle, et c'est vrai, il y avait 200 000 personnes, c'est-à-dire c'est le plus grand, c'est la dernière plus grande, le plus grand enterrement que l'on avait depuis très longtemps, y compris des gens qui nous haïssaient. Il y avait des gens du Parti communiste, alors pour le coup en bleu de travail, avec le poing levé qui haïssait les Mao, mais ils étaient là parce qu'on avait tué l'un des nôtres, l'un des leurs. C'était un enterrement
Tu vois d'ailleurs le peuple.
Là, tu vois le peuple.
Tu vois les éboueurs.
Il est là, tu vois les éboueurs, tu vois les étudiants, tu vois tout le monde. Il est là, le peuple. Mais il est là juste le temps de l'enterrement. Et surtout, ce que l'on sait... Moi, j'en ai conscience tout de suite, avec quelques copains, d'autres noms, mais on est tous dans le cercueil. On est tous dans le cercueil. C'est-à-dire que ce n'est pas Pierrot qui est enterré. On est tous dans le cercueil avec lui. Et le gauchiste armé est dans le cercueil avec lui. La mort de Pierre nous a obligés à réfléchir tout, à repenser tout, et à dire la violence, il faut qu'on arrête. Parce que quoi ? Parce que non, on n'est pas la nouvelle résistance. Non, oui, bien sûr qu'on est armé. Donc après, lorsqu'on s'est dissous, parce que les chefs ont décidé de dissoudre l'organisation, il a fallu, je peux vous dire que les canaux, la Seine, les petits lacs autour, il y en avait du matériel dedans. Parce qu'il fallait qu'on s'en débarrasse. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que nous étions prêts à cette fameuse guerre civile qui aurait dû arriver. Elle n'est pas arrivée, heureusement. Et c'est là où on s'est dit la dissolution, elle est inévitable.
Les chefs se sont dit...
La dissolution est inévitable.
Et il se trouve que d'autres, mais ce n'est pas l'objet du tout de ton livre, d'autres, eux, vont faire un autre choix.
Ils vont continuer. Oui.
Les plus connus, bien après, ce sera Action Directe. En France. Mmh. Donc tout le monde n'a pas tout à fait refusé.
D'ailleurs, sur France 5, dans quelques... Je crois que c'est la semaine prochaine, il y a un doc sur AD qui est bien.
Et alors donc, les chefs disent « Bon, on arrête les conneries. »
Oui, enfin, pas les conneries. Nous sommes allés au plus loin... les conneries, ils ne parlaient pas comme ça. Nous sommes allés au plus loin de ce que nous pouvions faire. Arrêtons, parce que maintenant, tout ça, ça pue la mort. Vraiment. Ça pue la mort.
Et donc, ils décident, certains d'entre eux, donc un dénommé Serge Julie, décide de transformer le journal La Cause du Peuple, qui était, dont le directeur de la publication, on a oublié de le dire, était Jean-Paul Sartre.
Absolument.
Parce qu'on n'enferme pas Voltaire, comme disait De Gaulle.
Absolument.
Et donc,
On ne peut pas arrêter Sartre.
Donc Sartre avait donné son nom comme une immunité, etc. Enfin, le journal était quand même interdit. Pour aller vite, ils vont essayer de t'entendre parler d'autre chose. Ça va s'appeler Libération. C'est page 291. Veux-tu lire ce petit passage ?
Alors, 291.
Il y a une petite tête à côté, tu vois, ça veut dire « Oh, ben ça, d'accord. C'est l'invité, s'il peut lire son livre. »
Les clandestins venaient de nous précipiter dans une autre dimension. Brusquement, le livre vers la guerre civile prenait corps. Notre armée était passée à l'action directe. C'était à la fois stimulant et terrifiant. Pourtant, nous ne pouvions pas rester les bras croisés, hurler à la résistance à longueur d'articles, de manifestations, de meetings, et rester figés lorsqu'un des nôtres venait de tomber. Impensable. Pierre avait été tué le 25 février, ses copains le vengeraient le 8 mars. À peine 12 jours pour mettre au point cette opération militaire.
Alors, c'était...
L'enlèvement
du patron de...
Du patron de la régie Renault. Mais c'est terrifiant, parce que... Donc, il a été enlevé, puis alors... On en fait quoi ? On fait attention, parce qu'il a des médicaments pour le cœur et on lui donne. Il est bien nourri, puis on le relâche. C'est-à-dire que l'enlèvement de Nogrette était baigné par des actions que pouvait faire la fraction armée rouge, les brigades rouges, comme plus tard il y a eu l'assassinat de Aldo Moro en Italie, etc. Mais nous n'étions pas des tueurs, en fait. On n'était pas des tueurs. Et donc, Nogrette est enlevé, puis Nogrette, il est relâché, et puis il y avait, je crois que, ah, parce que moi, j'étais pas là, évidemment, parce que j'étais pas dans les clandestins, mais il y avait...
Romancier y était.
Non, du tout. Non, il regarde les clandestins avec bonheur, il aimerait en être, mais il est trop petit, il est trop nul, il a jamais eu de pistolet et mitrailleur en
il
main.
Il est trop débile.
Il était trop militaro-débile. Oui, c'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qu'on reprochait aux militaro-débiles ? C'est de ne pas avoir lu les textes fondateurs. C'est-à-dire que nous, on disait, les militaros, venez voir, il faut attaquer le local du GUD à Assas. Ok ! Et pendant ce temps, eux, ils travaillaient, ils lisaient Marx, etc., ce que nous, on ne faisait pas du tout. Nous étions une sorte de encore un autre lumpen prolétariat armé qui... Et moi, ça m'allait très très bien. J'ai jamais été officier dans ma vie. J'ai jamais eu une envie de chef, etc. Moi, je suis un soldat et je suis une sentinelle. Et je me suis senti tout le temps soldat et sentinelle.
Ah je peux te le dire, c'est pour ça que c'était pas un très bon chef, au sens hiérarchique du terme.
Je suis un chef qui demande aux autres ce qu'ils ont envie de faire. Mais je crois que c'est comme ça
que
ça marche.
Tu nous as mal élevés quand même.
Ah ouais.
Comment tu veux travailler après?
Ben voilà, en étant là, au poste. Ben, tu es mieux quand même au poste que je ne sais pas où, chez Bolloré, par exemple.
Ah, tu parles de Bolloré. Oui. Y aura évidemment une question là-dessus. Mais d'abord... donc, il y a la rue de Lorraine, c'est le premier local de Libération.
Attends, je crois qu'on va un tout petit peu vite. Oui. Les dégâts de la dissolution.
Oui.
Parce que moi, je sais un peu dessiner, Serge Julie est mon copain, donc je vais rentrer à Libération, parce que j'ai les moyens d'entrer à Libération. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeunes qui se retrouvent avec rien, qui se retrouvent... sans la famille gauchiste, qui se retrouve sans les tâches, qui se retrouve sans les tracts à distribuer à 4 heures du matin aux ouvriers, qui se retrouvent... Moi, j'ai mon ami qui s'appelait Jean-Marc, que j'ai appelé Marc, là, ouvrier de chez Renault, comme Pierre Auvernet. Lorsqu'on s'est dissous, il nous a dit « Mais pourquoi vous êtes venus me chercher, les gars ? Moi, j'étais bien, je suis OS, j'étais vaguement blouson noir, ça m'allait. Pourquoi vous m'avez fait croire ?» qu'on serait heureux. Pourquoi m'avez fait croire qu'il y avait la révolution ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi vous m'avez fait rêver ? Vous auriez jamais dû me faire rêver parce que vous, salopards, vous allez retourner dans vos universités, dans vos facs. Mais moi, je retourne à l'usine et il y aura qui le matin à 4 heures pour me donner du courage ? Vous serez là, mais salopards, vous ne serez pas là. Et c'est ce que vous avez fait, c'est absolument dégueulasse. Et ces gens-là, il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui sont partis dans la drogue. C'est ces gens-là, à vie, ils me resteront. C'est-à-dire que Je pense que c'est terrible ce que je vais dire, mais j'aurais pu être contre la dissolution. J'aurais pu être jusqu'au boutiste. Enfin, j'aime pas ce mot, c'est les mots inventés par la droite, jusqu'au boutiste. Et les filles sont pas des résistances, sont des passionnariats. Ça, c'est la droite qui invente des mots qui me gavent comme ça. Mais j'aurais pu aller jusqu'au bout de notre idée de lutte armée, etc. Mais simplement parce que je voulais pas me retrouver seul. Parce que je ne voulais pas me retrouver dehors, dans la rue. Je ne voulais pas me retrouver sans toi. Et je sais pas si c'est de l'intelligence politique ou la peur. Peur de mourir, peur de tuer. Mais en tout cas, quand les gens de Libération m'ont dit « Viens », j'ai trouvé là une porte de sortie, disons, honorable. Honorable parce que la cause du peuple ne pouvait plus exister, est devenue Libération. Même si Serge Julie disait, et j'adore cette phrase, « J'ai envie qu'on fasse un François de gauche ». J'ai aimé cette phrase terrifiante. Eh bien, ça m'allait. Parce que tout d'un coup, bah, j'allais avoir une carte de prêt, j'allais avoir un numéro de sécurité sociale, j'allais avoir une carte d'identité, je ne rentrais pas dans la vie normale, mais en tout cas, je ne ferais pas attention à regarder derrière moi tout le temps pour vivre et pour espérer.
Et justement, page 332, tu as ce paragraphe qui est assez explosif. « Je soupçonnais, écris-tu ?» Enfin, le romancier. « Je soupçonnais nos chefs d'être fascinés par le journalisme. Un nouveau journaliste, disait-il, ou simplement de profiter de cette aubaine pour abandonner le combat, de quitter notre navire rouge pour s'abriter dans un port de commerce, de se faire attendre et oublier. » Est-ce que ce n'est pas les phrases les plus dures que j'ai lues ces 20 dernières années sur le journalisme ?
C'est vrai que c'est... Oui. Bah oui. Je suis désolé, mais c'est exactement ce que... Je pensais, pour répondre à Isabelle, oui, Serge Julie est encore vivant. J'ai eu une phrase comme ça qui m'était venue et qui me vient encore maintenant. C'est-à-dire que passer des points dans la gueule au point d'exclamation, eh ben c'est drôlement difficile. Et c'est vrai que j'avais l'impression, est-ce que je l'ai encore, je ne sais pas, mais d'avoir trahi, peut-être, d'avoir trahi... des gens qui nous ont cru, des gens qui nous ont suivis, des gens qui nous ont aimés, des gens qui nous ont fait confiance. Et j'ai toujours en moi cette petite, pas de l'amertume, mais une sorte de petit grignotement de cœur qui me dit et qu'est-ce qui serait passé si j'avais continué ? Mais c'est vrai que être, moi, je ne voulais pas être journaliste, c'était pas mon truc. Mais quand mon chef me dit « on va continuer le combat par d'autres moyens », bon, ben d'accord, j'aime bien la phrase, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais j'aime bien la phrase. Et je sais aussi que je vais... oui, on va continuer le combat par d'autres moyens, parce qu'en plus, entre-temps, il y avait eu l'IP. Et l'IP, bon, pour les plus jeunes ou ceux qui ne se souviennent plus, l'IP, c'est quand même formidable. C'est les montres LIP, les gens, les patrons veulent fermer l'usine, les ouvriers de chez LIP à Besançon disent « ben non, c'est illégal. Non seulement on ne ferme pas l'usine, mais on va continuer la production de montres, c'est illégal. Non seulement on va continuer la production de montres, mais on va vendre nos montres, illégal. Et non seulement on va vendre nos montres, mais avec l'argent des montres vendues, on va se payer des salaires, c'est illégal. Il n'y a pas un coup de feu qui a été tiré, il n'y a pas une barre de fer, il n'y a pas une bombe. Il y a une révolte prolétarienne qui est immense, sans qu'il y ait un cri, sans qu'il y ait de sang versé, sans rien. Et ceux qui mènent ça, ce n'est pas les Mao, les Trotskistes, etc. C'est les chrétiens, c'est la CFDT, c'est les syndicalistes. Et nos chefs nous ont dit, mais vous savez quoi les mecs ? En fait, il est là le peuple, le vrai, il est là. Et tout d'un coup, il y avait une sorte de... C'était l'IP ou la guerre civile ? Bah, tant qu'à faire, ça sera l'IP. Parce que la dignité, elle était aussi à l'IP. Elle était là, la dignité.
Quel regard tu portes sur le Libération d'aujourd'hui ?
Mais je l'aime bien. J'ai eu beaucoup de... Mais je l'aime bien.
Déconnes,
j'ai eu
là.
Beaucoup de mal.
Là,
mais
tu
non.
Déconnes, la sorge.
Mais non, je déconne pas. J'ai eu énormément de mal. Moi, je j'aime pas cracher sur mes enfants. J'ai eu beaucoup de mal quand je suis parti. J'ai quitté Libération quand le baron Edouard de Rothschild a racheté Libération. Et il avait fait un petit message dans Le Monde, une petite... et c'était en finir avec l'époque Julie. Il y a des gens qui étaient à Libération, j'étais juliste en fait, hein, j'étais vu comme un juliste, qui sont venus me voir en disant « Alors les julistes, on va longer les murs maintenant ?» Et là j'ai compris que ma place n'était plus là. Donc j'ai détesté ce journal, et puis tant qu'à faire, lorsque je lis la presse aujourd'hui, je trouve quand même dans Libération des choses qui me vont, d'autres choses non, mais je trouve des choses qui me vont plus que dans d'autres journaux.
Je vois ton côté tendre qui perdure.
Bah attendre, et puis c'est... Enfin, tu sais, c'est comme si, je sais pas, nous avons créé Libération en 73, bah c'est un gamin qui a grandi aujourd'hui, il fait peut-être des erreurs, mais il est là. C'est-à-dire que, enfin, moi je... Voilà, c'est simple. Tu prends dans des mairies qui ont été gagnées par le Front National en France, et par le Rassemblement. La première chose qu'elles font, je trouve ça tellement mignon, ils vont dans des médiathèques, ils arrêtent les abonnements de Libération, de l'UMA, c'est génial. Donc s'ils arrêtent les abonnements de Libération, je me dis, bon allez, c'est peut-être qu'il y a un truc qui ne leur plaît pas quand même. Donc on va quand même les soutenir un peu.
Olivier Nora, le patron de Grasset, qui est donc ta maison d'édition, publié une interview il y a quelques jours dans la Tribune Nouvelle, le truc du dimanche, où, alors il ne parle pas de toi,
non.
Mais le titre c'était « Attention aux selfies doloristes ». Là, il nous reste une dizaine de minutes, on va parler plus de style.
C'est
de
pas
choses
moi,
comme ça.
Là, effectivement.
C'est pas toi.
Selfie doloriste, c'est pas moi, non.
Mais qu'est-ce que tu penses de ça, hein, de cette idée que la littérature, la rentrée littéraire regorge de...
Je suis embarrassé parce que je l'ai fait aussi. C'est-à-dire que j'ai parlé de mon enfant, j'ai parlé de mon père qui me battait, etc. Mais j'ai jamais fait ça pour me faire plaindre ou pour guérir. Jamais. J'ai fait ça pour partager. C'est-à-dire que moi, quand je parlais de mon père qui me battait dans les salons du livre, lorsqu'on venait me voir, c'est pas pour dire « Ah, pauvre sœur, je t'en perds d'abattu », mais c'est pour dire « Mon père aussi
bien sûr.
Me battait ». Et donc, chaque fois que je suis entré dans c'est pas selfie de Laurie. Chaque fois que je suis rentré dans ces trucs d'autobiographie, etc., c'est pour partager avec des gens une douleur, une souffrance, un effroi. J'ai écrit Une joie féroce sur le cancer, parce que ma femme et moi avions un cancer. Et ma femme dit, ça serait bien que tu écrives sur un cancer de femme. Ce serait bien que pour une fois, tu sois une femme. Et c'est tellement magnifique lorsque quelqu'un vous dit dans un salon du livre, pourquoi un peu le cancer, c'est bankable? Non, non, j'en ai un, monsieur. Ah, pardon. Et c'est tellement... Et là, tout d'un coup, tu vois, et c'est... Non, c'est simplement que je veux partager. Et les gens qui sont venus me voir après dans... les salons du livre, me remercier parce que les femmes sortaient d'un cancer et grâce à ce livre, elles avaient ri. J'ai jamais fait un roman pour me plaindre. J'ai fait un roman pour trouver des compagnons de douleur, des compagnons de combat, des compagnons... C'est-à-dire que chaque fois que je suis en représentation, entre guillemets, sur mon livre, les gens me parlent d'eux. Et je crois que le plus beau compliment qui m'ait été fait au monde depuis que j'écris la fiction et le roman. C'était, donc, j'ai eu le prix Goncourt des lycéens avec Le Quatrième Mur sur le Liban et notamment sur les massacres de Sabra et Chatila au Liban en 1982. Si je l'ai écrit, parce que j'étais avec deux autres journalistes à Sabra, à Chatila, et nous avons assisté à la fin des massacres, puisque nous sommes arrivés le deuxième jour. Et si vous ne savez pas pourquoi vous écrivez, j'ai écrit ce livre-là, Le Quatrième Mur, qui raconte pas un journaliste, on s'en fout des journalistes, mais qui raconte un metteur en scène de théâtre qui va monter une scène, qui veut monter en Antigone à Beyrouth. Et je racontais aux élèves Beyrouth, Sabra, Chatila, et je leur dis jamais de ma vie, je me suis senti aussi seul. Jamais, dans le camp. Le silence du camp, jamais aussi seul. Il y a un gamin, terminal, première, qui a pris le micro et qui m'a dit « Vous trompez, monsieur, vous n'étiez pas seul, on était là. » Si tu ne sais pas pourquoi tu écris, et tu as un gamin qui te dit qu'en gros, dans Sabra et Chatila, ces gamins-là étaient à mes côtés, c'est pour ça que j'ai écrit. Et quand je fais ça, je ne fais pas un selfie de Dolores ou je ne sais pas quoi. C'est parce que je veux que ces enfants-là connaissent le prix de la paix et connaissent le prix de la guerre. Et ça, pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. On était là, monsieur. C'est exactement pour moi le pouvoir de la littérature.
Il faut bientôt arrêter cette émission. J'avais une question très prosaïque.
Personnelle ?
Non, pas du tout.
Non, prosaïque. Quand vas-tu mourir ?
Non, pas du tout, pas du tout. Je m'adresse à Nayan qui est en régie. Est-ce que tu as le magnéto qui est prêt ou pas, Nayan ? Qui était dans le... Ouais, c'est pas grave, je vais raconter. J'étais au poste, était aux amphis de LFI, oui. Et il y avait un petit salon du livre. Et donc, j'ai déambulé, comme j'aime bien faire, avec ma caméra, etc. Oui. Et je suis tombé sur Nicolas, de la maison Libertalia. Donc, on avait un petit extrait, mais c'est pas grave.
C'est un ami.
C'est un ami.
Oui, absolument.
Voilà. Et bien, cet ami a adoré ton bouquin.
Et je m'en revendique. Et c'est un ami libertaire. C'est bizarre. Je ne savais pas qu'un jour, les marxistes, les léninistes et les libertaires, mais c'est un ami.
C'est un copain à toi.
C'est un mec bien. Ouais,
c'est un mec super.
Vraiment,
ouais. Attends, fais gaffe, le vends pas trop parce que...
Mais tant pis.
Il nous dit, de mémoire, il dit, voilà, j'ai posté sur Instagram, j'ai dit que c'était vraiment que j'ai aimé ce livre, le livre de Sorge, etc. Il dit, mais Grasset. Mais Grasset. Mm. Alors rappelons, Grasset appartient... Depuis peu.
Voilà, depuis peu, parce que moi, c'est Bolloré. Le 12e roman que je fais, donc je vis toujours chez Grasset. La maison Bolloré vient de me permettre de sortir un roman sur la gauche prolétarienne. Je ne suis pas chez Bolloré, je suis chez Grasset. Mon patron, ce n'est pas Bolloré, c'est Olivier Nora. Et ce que je peux vous dire de façon très simple, quand Serge Ulli a été viré par le baron Édouard de Rothschild, j'ai quitté Libération. Si un jour on cherche, si on fait du mal à Nora et à son équipe, je quitterai Grasset. C'est aussi simple que ça. Tant que je peux travailler librement, tant que je peux écrire ce que je veux, tant que je peux écrire que le petit Kel, ça a été Mao, etc., et que c'est publié, je reste. Le jour où l'équipe avec laquelle je travaille maintenant depuis 20 ans sera empêchée, sera moquée, sera maltraitée, à ce moment-là, je prendrai mes responsabilités. Vraiment, pas comme un homme politique. J'ai claqué d'autres portes, j'ai été dans d'autres rues, je peux me retrouver à la rue encore une fois. Je ne peux pas être plus clair.
Tu ne peux pas être plus clair. Et puis, c'est d'autant plus clair quand on t'a lu.
Ben oui, bien sûr.
C'est d'autant plus clair quand on t'a lu. Je voulais te demander, pour terminer, avant les deux, trois questions, la question rituelle, je voudrais juste... j'ai pensé à cette expression populaire en lisant ton livre à longueur de temps, mais je ne sais pas si c'est... Je voudrais savoir ce qu'elle t'inspire. On ne se refait pas. Tu sais, on dit souvent, on ne se refait pas.
On ne se refait pas. Oui.
Est-ce que toi, tu te refais à longueur de page?
Oui. Moi, je doute. Donc, je me refais tout le temps. C'est-à-dire que le jour où je dirais « on ne se refait pas », je te demande de mettre ton poing dans ma gueule. Parce que j'aurais échoué. On se refait. On se refait tout le temps. C'est-à-dire que chaque jour, chaque minute, je suis devenu père, j'ai eu trois filles, je me suis refait grâce à ça. C'est-à-dire que Le doute avec lequel je vis et les certitudes. Moi, je suis orphelin d'idéologie. J'ai des choses qui sont claires et nettes, qui ne bougeront jamais. fondamentaux, mais je veux chaque fois me refaire en mieux, c'est-à-dire être différent, même si je surprends les gens. Je veux pouvoir, en fait, je veux pouvoir mourir en étant plutôt content de ce que j'ai vécu. J'ai pas envie. Mao Tse-tung disait, il y a des morts qui déplacent des montagnes et d'autres qui ont moins de poids qu'une plume. Alors je veux pas déplacer des montagnes, mais j'aimerais avoir eu une vie qui avait plus de poids qu'une plume quand même.
Ultime question, as-tu une recommandation culturelle, cultuelle, alors, ce que tu veux?
Alors, j'ai pas envie de jouer parce qu'on me dira, Grasset, ça y est, il parle que de Grasset, mais j'ai pas lu le livre encore, il n'est pas sorti encore, mais il me bouleverse avant même de l'avoir lu. C'est un livre sur Hervé Bazin qui va faire très très mal, oui, à tout le monde.
Parce que...
il a menti. Folcoche était adorable. Et Hervé Bazin était un petit monstre. Alors, je n'ai pas lu le livre, mais apparemment, le livre est vendu comme ça. Il nous a menti tous, poil de carotte. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un enfant battu comme il l'a prétendu. Il était aimé, choyé, adoré, etc. Et il a tenu sa famille sous sa coupe. Et donc, moi, j'ai vécu avec poil de carotte au cœur, avec la salope de Folcoche, etc. Et il semblerait, donc c'est pas paru encore, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai lu le pitch, il semblerait qu'Hervé Bazin nous ait tous un petit peu menti, et que le petit bonhomme, eh ben, il n'était pas si sympa que ça, et Folcoche n'était pas si méchante que ça. Rien que ça, ça me rend hystérique de penser ça. Parce que moi, j'ai vécu mon enfance d'enfant battu avec poil de carotte. Il y avait poil de carotte, il y avait Jules Vallès, il y avait toute cette cohorte de gamins battus. Je ne veux pas qu'on m'en enlève un, quoi. Je ne veux pas qu'on m'en enlève un.
T'es chiant.
Mais pourquoi?
Parce que tu me fais pleurer.
Mais moi aussi, je pleure.
Merci, Sorge. J'étais...
Jamais leur donner nos larmes. Jamais. Leur donner nos larmes. Jamais. Ça, c'est une chose que je me suis interdit. Même, j'ai été rattrapé par le GUD dans les jardins de l'Observatoire. Enfin, j'ai bien pris. Surtout ne pas donner nos larmes, jamais. Donc, je veux bien qu'on pleure ensemble au poste, qu'on le dise comme ça, mais jamais. Ça, c'est un truc que je ne réserve qu'à mes amis. Parce que ce sont des larmes violentes. Et je ne veux pas qu'ils les voient.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Il faut que je fasse ta photo, oui. Je vais te raccompagner, et puis après, moi, je vais revenir avec la petite bande.
C'est quoi les questions traditionnelles, tu m'as dit, c'est ça?
Il y a ça ou il y en a une autre?
Vas-y.
Mais
Elle n'est pas bonne?
Si.
Elle est dure?
Mais tu as déjà répondu.
Ah, pardon.
L'autre réponse est que faire?
Que faire?
Que faire? C'est une question que vous êtes posée un petit peu, les gars, je crois.
Ouais. Je ne sais plus. En fait, je crois que je ne peux que faire dans mon environnement, avec les gens que j'aime, avec mes amis, avec l'éducation que je donne à mes filles. Je ne crois plus au... J'ai perdu le goût des partis, le goût de la foule, j'ai perdu le goût des slogans. C'est peut-être ça, vieillir. Mais quand je suis allé à des manifs de jeunes antifa, notamment pour la mort de Clément Méric, c'était mignon, parce qu'il y en avait qui avaient 17 ans et qui disaient « Pousse-toi, pépé !» Et j'ai envie de les prendre dans mes bras, et je suis reparti de là en me disant « Ok, ça va, il y a une petite relève qui est là. » Et ça m'a fait très plaisir. Donc, c'est eux qui vont faire. C'est pas moi. Moi, je suis au bout, là. Je suis en crépuscule.
Daft Up nous dit un grand, grand merci. Enfin, te dit un grand, grand merci. La belle Hélène, tu dis témoigner, c'est parfait. Mr Coltrane nous dit merci à vous deux. À voir, revoir, revoir. Merci pour votre douceur et votre humanité.
Merci.
Mon cher Sorge,
bravo. Ah oui, pardon. Non, mais bien sûr, Hervé Bazin, c'est vipère au point. Pas, oui. Mais bien sûr, j'ai dit...
poil de carotte.
J'ai dit poil de carotte. Mais je suis tellement ému de penser qu'en fait, la vipère au point, c'était lui. Et c'est terrifiant. Mais bon, merci beaucoup d'avoir relevé ça, bien sûr.
Pause, Diane, et je reviens dans quelques instants.
D'accord.
Coup de tonnerre à 2 ans de l'élection présidentielle.
C'est un séisme politique.
C'est un choc politique.
C'est un coup de tonnerre.
Qui provoque ce séisme politique.
C'est un coup de massue.
On a à avoir une élection démocratique avec une personne qui représente une grande partie des Français.
Votre scénario, monsieur le député, une loi d'amnistie, on annule.
L'inéligibilité, je pense que ce n'est pas une bonne loi, puisque que vous le vouliez ou non, c'est enlever la souveraineté du peuple. Si le peuple veut voter pour quelqu'un qui a fait les pires, c'est le peuple qui décide. Monsieur...
Le cas de Nicolas Sarkozy ou même de Marine Le Pen, on ne peut pas s'empêcher, vu la gravité des peines qui sont demandées, de se dire qu'il y a quelque chose de disproportionné.
Il s'agit d'une négation pure et simple de l'état de droit.
Je fais confiance à Nicolas Sarkozy pour apporter les preuves de son innocence.
La France est-elle encore une démocratie ?
Sarkozy le sait et qu'il a le cuir épais, je veux lui redire mon soutien personnel.
Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique.
Jamais dans ma vie, je n'ai supporté et accepté l'injustice. Ce qui se passe aujourd'hui est une injustice profonde.
Nous partageons une sainte horreur de l'injustice.
Monsieur Nicolas Sarkozy est présumé innocent. Et il l'est plus que jamais, et il démontrera son innocence.
Il s'agit là d'un désaccord administratif avec le Parlement européen. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien de tout cela.
Nicolas Sarkozy est pleinement innocent des faits qui étaient reprochés.
Je suis innocent, monsieur
Boulot. Et vous êtes tous innocents,
le parti des 23. Évidemment que nous sommes tous innocents.
Le problème avec les juges, c'est qu'il ne reconnaît absolument rien de ce qu'on lui reproche.
Chacun soit rassuré, je ne lâcherai rien.
Je me battrai jusqu'au bout.
Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi.
J'irai jusqu'au bout.
Je le ferai jusqu'au bout.
Avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro une lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République.
Si Marine Le Pen est condamnée ?
Si, avec des si, un appel. L'appel vous rend plus blanc que blanc, mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente.
Le tribunal de Paris a donc rendu sa décision. Marine Le Pen est reconnue coupable de détournement de fonds publics. Elle était jugée depuis plusieurs mois dans l'affaire des assistants parlementaires du RN. Elle est condamnée à une peine d'inéligibilité avec exécution immédiate.
Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse sauf le Front National.
Quand on voit la liste de tous les responsables politiques qui sont condamnés, qui ont été condamnés et qui sont aujourd'hui à des postes de très haute responsabilité, mais je veux dire, on rêve. TSK, Juppé, Hérault, Désir, Andrieux, Guérini, Dallongeville, Woerth, Tapie, Tron, Tibéry, Chirac, je veux dire, on ne tire jamais les leçons.
Vous mettez dans
quand
le même panier.
Allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. Moi, ma veste, elle est immaculée, voilà. Et ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir.
La sanction ne doit pas seulement être ferme, elle doit être rapide, car à défaut, on nourrit chez le délinquant un sentiment d'impunité et dans la population, un sentiment d'injustice. Car une justice efficace, c'est une justice dont les décisions sont suivies des faits.
Laissez la justice faire son travail.
Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Marine Le Pen a été condamnée à l'inéligibilité immédiate pour 5 ans. Elle a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National.
Marine Le Pen est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire dans le cadre du procès des assistants parlementaires européens du RN.
La Cour de cassation, qui a rendu son verdict hier, a confirmé la condamnation de Nicolas Sarkozy à 3 ans de prison, dont une année ferme, pour corruption et trafic d'influence.
Amis des amis, me revoilà. Écoutez, j'espère que cet entretien vous a plu avec Sorge Chalandon. C'est toujours un peu compliqué d'interviewer des amis, des bons copains dont on sait beaucoup de choses. Voilà, j'espère avoir laissé la parole autant que possible à Sorge, parce que ce qui compte, c'est l'invité, évidemment. Et vraiment... voilà, si les années 70, si les histoires de lutte armée, d'engagement physique, d'engagement politique, etc., bah, si ça vous intéresse, je vous le recommande chaudement. Le livre est sorti au mois d'août, il caracole déjà en tête des ventes. Voilà, Alex nous dit « Depuis un petit restaurant géorgien, douillé au fond de l'Estonie, je vous salue. » Ah bah ça, c'est chouette. Bien, belle rencontre. « Mr. Coltrane, c'était particulier, mais tellement génial. » Ah, en quoi c'était particulier ? Dis-moi, qu'est-ce qui était particulier ? Je voulais vous dire que hier, Nora Boisouni, Nora Boisouni a commencé demain de mettre sa nouvelle émission « Qui va faire la vaisselle ?» qui est le pendant féministe de l'émission « Bouffe de la puisque c'est une suite, elle a expliqué, elle avait reçu hier Ludivine Bantini, donc je pense que on n'est pas chez les cons. Tiens, j'ai oublié de lui dire, on n'est pas chez les cons, c'était un truc qu'on disait à Libération dans les années 90, pour se moquer de nous, de nous-mêmes. On n'est pas chez les cons. Voilà, façon de dire, bref. C'était pour excuser les ratés de Libération en disant, ben, on le fait exprès parce qu'on n'est pas chez les cons, et ainsi de suite. Bon, voilà. On n'a pas parlé, je ne vous ai pas revu depuis lundi matin. Sur la matinale, France des Terres, je ne sais pas si vous étiez du matin, puisque vous êtes du soir, c'est pas évident, mais je serais très très heureux d'avoir vos retours sur cette matinale du lundi. Pour ce qui nous concerne, l'équipe, on était super contents de faire ça, super super chaud. Voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord de l'émission. Alors le Discord, il est annoncé dans le chat, il est annoncé dans les descriptions de toutes les vidéos, etc., etc. N'hésitez pas à nous rejoindre pour établir l'émission, pour faire des retours, pour faire des propositions, des suggestions. On va être tranquille cette semaine. On arrête. Il n'y aura pas d'émission a priori, sauf live sauvage. Mais alors, par contre, la semaine prochaine, ça va démarrer fort. Lundi matin à 7h, France des Terres numéro 2, donc la matinale d'Opost. À 15h, à partir de 15h, l'Assemblée nationale. Alors là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va là-bas ou est-ce qu'on suit ça d'ici ? Merci beaucoup, contente de participer chaque mois au poste. Je pense que t'imagines, tu veux dire participer financièrement. Cette rentrée percutante, j'ai écouté la matinale et l'émission féministe d'hier, tout bien. Bah merci beaucoup. Akarakir, merci pour cette belle reprise en force. Super. Super, oui, on va la continuer la matinale. Non, moi, ça me fait marrer. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est très, très difficile en termes de programmation. Parce que vous pensez bien que, par exemple, le 8 septembre, tout l'aéropage politique est déjà bloqué, réservé dans les gros machins. Donc, ça va être un peu plus... C'est un peu rude pour nous, évidemment. On est en Ligue 2, hein. Mais moi, c'est ça qui me fait barrer. Voilà. Aller là-bas, c'est croiser les clowns de frontières, ça peut être drôle. C'est vrai, j'y ai pensé. Pour tout vous dire, j'ai demandé à l'Assemblée nationale si on pouvait être accrédité. Ce qu'il y a, c'est que il y a deux choix possibles. Le choix de le faire d'ici, ça veut dire d'écouter les questions au gouvernement, d'écouter le discours de François Bayrou, puis la réponse de chacun des groupes, et donc d'être vraiment au fait de ce qui se dit. Tandis que d'aller là-bas, et c'est plutôt vers 18h à ce moment-là, là on est plus dans l'ambiance, on est plus dans le folklore, on est plus dans le théâtre. Un tour dans la salle des quatre colonnes, oui c'est ça Roland. Alors est-ce qu'il y aura une émission pour la planète, la belle Hélène? Pas sûr, parce qu'on a un problème. Il faut qu'on fasse gaffe au niveau des dépenses. Il faut qu'on fasse gaffe au niveau des dépenses. Et donc, comme ici, tout le monde est payé, on ne peut pas multiplier les agitateurs et les agitatrices, c'est-à-dire les animateurs et les animatrices. Mais c'est évidemment le prochain rendez-vous qu'on doit créer, il est là. Voilà. Ensuite... 4 clowns, la salle des 4 clowns, pas mal. En duplex, oh Robin, en duplex, David sur place, Nayan ou moi à distance au studio. Oh mon cher Robin, attention, attention, ça peut m'intéresser ton affaire. Bon, je vais en parler avec Nayan. Voilà, merci à vous toutes, à vous tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve lundi matin, 7h pour la... France des Terres. Je peux vous dire d'ores et déjà qu'il y a une invitée, c'est la patronne, je le dis exprès, la patronne, puisque maintenant c'est une patronne, après 50 ans d'existence, de la Fête de l'Humanité, qui sera là à 7h30 pour nous raconter ce qui se passera les 13, 14 et 15 septembre. Si vous êtes sur la région parisienne, nous aurons notre stand dans le village des médias indépendants les 13, 14, 15 septembre. Et puis le 8 septembre, donc le lundi qui précède, on parlera de la fête de l'humain, etc. Ne leur donnons pas nos larmes, absolument. Un œil extérieur, ça peut être bien. Merci, à lundi. N'hésitez pas, chers amis, à nous dire sur le Discord ce que vous attendez d'Opost. Et je vous dis à lundi.
Les amis, nous sommes sur opost.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est opost, opost.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous à Opost.
J'encourage, faites un don à Opost. Ah non, c'est là la caméra.
Abonnez-vous Opost.
Et faites des dons à Opost. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à Opost. Il faut donner de l'argent pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, abonnez-vous Opost.fr. Opost.fr. Abonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer le récit, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir Opost.
Abonnez-vous!
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à Opost et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous!
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Opost.fr, il n'y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient Opost, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à Opost, il ne faut pas que ça soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard, il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous Opost.fr, Opost.fr.
Bravo. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr.